Quelles sont les caractéristiques spécifiques du corps féminin et leur impact sur l'entraînement et la performance? Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque lundi, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser et performer. Avec l'or, nous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer bien plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Et aujourd'hui, si je vous demande la différence entre un homme et une femme, vous allez probablement d'abord me parler de différences anatomiques sexuelles. C'est la différence la plus évidente et la plus visible. Mais dans cet épisode, nous allons beaucoup, beaucoup plus loin. Car outre ces différences sexuelles, nous allons bien entendu parler des hormones, mais aussi du taux de muscles et de masse grasse dans le corps, de la répartition des graisses, mais aussi de la taille des fibres musculaires. Autant de paramètres qui expliquent des qualités sportives différentes et complémentaires, je le pense. Alors, il y a certains paramètres sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut même rien faire du tout, mais leur compréhension permet de mieux comprendre et adapter l'entraînement ou l'alimentation. Ces différences expliquent aussi des points de vigilance particuliers sur la santé féminine. L'or nous sensibilise notamment sur le fer et le syndrome Reddes. Et la semaine prochaine, nous parlerons plus particulièrement des règles et des cycles féminins, ainsi que des changements au cours de la vie d'une femme. Dans cet épisode, nous avons aussi répondu à vos questions sur l'entraînement et la course, et fait un petit jeu à la fin. Mais avant de partager avec vous cette discussion passionnante et très enrichissante, je fais une pause publicitaire car oui, c'est la pub en plus de mes programmes et coaching qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Laure.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Ça me fait bizarre de te dire salut alors que je sais pas, on a dû s'envoyer au moins 30 messages et qu'on a dû échanger 4 vocaux. Ça me fait bizarre de te dire salut.
Alors, comment vas-tu depuis tout à l'heure dans ce cas-là?
Ouais, depuis une heure. Bah, ça va bien, toujours bien. Hein. Je crois que tu sais que ça va bien. Et toi, comment tu vas?
Bah écoute, tu sais, j'ai rangé mon vélo, j'ai pris ma douche. Et
oui, c'est vrai, t'as eu la chance de faire du vélo, ouais. Toi.
Et tu sais quoi? J'ai eu une sacrée surprise aujourd'hui.
Vas-y.
Je me suis regardé dans la glace, à poil. Et tu sais ce que j'ai vu?
À poil.
Des bouts d'abdos qui commencent à apparaître, ça commence à creuser
Cool.
sur le côté et tout. J'y croyais pas. J'ai dit, punaise, un truc qui commence à apparaître, qui commence à changer. Bref, j'ai dit.
Mais
allez.
Tu fais une routine abdos le matin?
Eh ben, même pas. J'ai vu mon ancien coach de fitboxing. Il m'a dit, non, mais si tu faisais une petite routine abdos, ça te ferait du bien et tout. Je dis, oui, coach, tu as raison et tout. Il m'a dit, t'as pas besoin d'aller à la salle, fais ça, tu sais tout faire, vas-y, mais fais-le tous les jours. Je dis, d'accord, coach. Donc, je vais commencer lundi. Donc, aujourd'hui, diffusion de l'épisode, je commencerai aujourd'hui. Tu vois, là, je me laisse le week-end parce qu'on enregistre vendredi, jeudi. Mais voilà, après, ça sera parti comme ça.
Bon, cool. Trop contente pour toi.
Bon. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est... Enfin, aujourd'hui et la semaine prochaine, je crois. Hein, parce que c'est un sujet qui est vaste.
Ouais, alors, on aimerait en fait honorer la Journée internationale du droit des femmes du 8 mars. En la couronnant. On s'est dit que ça serait joli de couronner cette journée avec la minute perf d'avant et la minute perf d'après consacrée vraiment à la spécificité du sport féminin. Alors messieurs, restez connectés. Cette minute perf, elle vous est tout autant, comme le disait Bertrand à très juste titre, mercredi dans l'épisode avec Nathalie Simon, que ça vous est tout autant destiné parce que en fait on a vraiment vocation, on a vraiment envie de vous expliquer comment fonctionne une femme pour vous permettre de mieux comprendre les femmes avec qui vous vivez et donc peut-être aussi de lever des incompréhensions, de lever alors les femmes, Bertrand se marre, les femmes avec qui vous vivez, donc la femme avec qui
non,
vous vivez.
Non mais c'est pas ça, c'est d'une part bon, les femmes, c'est comment fonctionne une femme. Bon alors. Ça fait un peu mécanique, okay. Cette histoire, donc, tu vois, c'est, sans le coup,
non,
je dis bon...
Non, mais
bon,
t'as compris, quoi, voilà, bien l'idée, sûr. C'est ça. C'est quand même que, souvent, dans le couple, il y a des tabous, il y a des choses dont on n'ose pas parler. Ben, nous, on va essayer, on a levé des tabous avec faire caca dans les bois, donc à partir de ce moment-là, on peut lever tous les autres tabous, hein. Donc on y est parti. Non, mais en fait, moi, c'est pas pour moi du tout un tabou, cette thématique. On a deux physiologies, on va le voir, deux morphologies qui sont totalement différentes. Ça fait partie de l'apprentissage de l'autre, hein, d'ailleurs, l'apprentissage de la différenciation des sexes. C'est ce qu'on fait à l'école avec l'éducation à la sexualité. Donc, nous, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va essayer de revenir sur des choses qui nous semblent importantes et qui nous permettent aussi de comprendre la différence de performance entre les hommes et les femmes. Ça va surtout être l'épisode d'aujourd'hui. C'est de comprendre pourquoi la performance des femmes, elle est différente de la performance des hommes. Qu'est-ce qui fait, sur le plan anatomique, physiologique, biomécanique, que... forcément, il y a des fois où ça marche, ça peut pas être aussi bon. Et puis, l'idée, c'est peut-être d'ouvrir un débat, d'ouvrir un dialogue dans les couples pour lever ces tabous et que finalement, si notre épisode, il peut servir de point de départ et de point de discussion à tout ce que vous allez vous raconter ensuite, on en sera très heureux. Mais en tout cas, nous, c'est vraiment dans cette logique-là qu'on le fait. On entend beaucoup parler de la femme et puis on trouve que c'est aussi complètement d'actualité avec l'introduction en Espagne d'une journée de congé menstruel pour les femmes. On est quand même sur des grosses dynamiques politiques sur ce point, donc c'est clairement bien sûr qu'on profite de la journée internationale du droit des femmes. Alors moi, Bertrand, je te l'ai pas dit, hein, mais je vais faire ma lauréac pour commencer, c'est-à-dire que d'habitude j'ai tendance à dire oui, de toute façon il faut attendre la journée internationale du droit des femmes pour parler des femmes. Voilà, ça c'est mon petit truc habituel de féministe. Bon, je te le fais pas, je te l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que Bertrand est un féministe dans l'âme, et donc c'est pour ça que je ne me suis pas autorisée à lui faire et que j'avais juste envie de le taquiner un petit peu. Mais c'est vrai en fait, c'est-à-dire que nous on le fait parce que c'est symbolique et parce que c'est un moment on en parle beaucoup plus, mais c'est vrai que moi, ma petite sensibilité de féministe souvent fait que je me dis ça, et il y a beaucoup de femmes qui se disent ça aussi. Il n'y a pas une journée internationale du droit des hommes, et c'est bien dommage, parce que c'est ça aussi l'équité, ça serait d'envisager les deux. Et il y a des femmes qui disent, alors ça, j'y crois, on en rigole, mais que du coup, s'il y a une journée internationale du droit des femmes, ça veut dire que le reste de l'année, c'est la journée internationale du droit des hommes. Donc voilà, donc nous, l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment de replacer un petit peu la femme au centre, de comprendre son fonctionnement. Alors, on va pas prendre de prudence épistémologique, scientifique, méthodologique, comme je pourrais avoir l'habitude de le faire, moi, dans des travaux ou dans des conférences. C'est-à-dire que d'habitude, je vais avoir tendance à dire que travailler sur la femme, c'est surtout pas travailler en comparaison avec l'homme. Mais ça demande beaucoup de prudence, ça demande beaucoup de préparation. On vous rappelle que nous, l'objectif de ces épisodes, c'est aussi de rester sur un niveau de langage qui est compréhensible, accessible, qui vous permet d'écouter ce qu'on vous raconte dans n'importe quel moment de votre vie. Donc, on va faire quelque chose d'assez simple. Et ce qui est simple, ça reste aussi la comparaison, parce que malgré tout, la comparaison, elle permet vraiment de se représenter des choses. Donc, ça, c'est important.
C'est d'autant plus important que, en fait, il y a des hommes qui écoutent. Et si tu veux que les hommes écoutent et arrivent à écouter jusqu'au bout, il faut que tu restes simple.
Il faut qu'on leur parle.
Faut t'arriver à nous parler simplement parler et d'eux. Tout. Et puis en plus, imagine que les gens qui sont en train de courir, qui n'ont plus le cerveau qui est bien oxygéné parce qu'ils sont en train de courir à toute vitesse et non pas en endurance mentale tranquillement pour nous écouter. Donc voilà, restons dans. Mais ce qui veut pas dire simpliste, etc. Ce qui veut dire d'essayer d'avoir un langage qui permet que tout le monde comprenne et que tout le monde comprenne vraiment les choses. Parce que je crois que, en tant qu'homme, je dis vraiment, on a des trucs à apprendre. D'abord, je vais faire une petite annonce du plan avant qu'on plonge dans le reste de l'épisode quand même. On a une petite rectification
Bertrand,
à faire. Pardon.
Bertrand reprend son leadership là.
Voilà.
Là, tu mets la casquette, là, tu rigoles plus, là, tu es sur le micro là.
Non, mais c'est vrai. Ça. On a une petite rectification à faire. Pourquoi je le dis ? Parce qu'après, je voudrais qu'on place vraiment, qu'on ait le temps vraiment de vraiment parler des questions sur les femmes et tout.
Toi, tu veux aller vite maintenant. Tu veux plus prendre le temps et mettre des pièces de 10 balles.
Ah voilà. Ouais, aujourd'hui, pas de pièces de 10 balles. Okay. Mes poches sont vides.
J'ai demandé à Bertrand de vider ses poches des pièces de 10 balles.
Je fais la quête. Si vous avez une pièce de 10 balles pour moi, je la veux bien. Je vous donne mon adresse sur PayPal.
Il est déprimé à cause de moi.
J'ai plus de fric. Ensuite, on va répondre à des questions.
Collaborative de 10 euros à chaque fois. Voilà. Le billet de 10 euros pour Bertrand.
Voilà. Merci. Après, on va répondre à des questions. Et notamment, on aura une question qui permettra de faire la jonction. Et les questions, ça d'ailleurs, c'est des questions d'hommes. Je remarque, parce que voilà, donc les hommes, une raison de plus de rester. Après, on parlera de vous, les femmes, hein, en tout cas, le sujet. Et puis, restez à la fin parce qu'on a un petit jeu. J'ai lancé sur Instagram une petite boîte à questions. Et vous avez posé plein de questions rigolotes. On fera ça à la fin pour se détendre et pour finir là-dessus. Bon, alors, d'abord, la petite rectification.
Oui,
que tu
alors moi,
faire.
Je remercie Véronique qui m'a contactée sur Instagram, et comme quoi c'est vraiment intéressant aussi de nous contacter, donc de venir à nous. On n'a pas la science parfaite, pas infuse, comme on vous l'a dit. On prépare les épisodes, bien sûr, mais on ne peut pas vérifier toutes les données que l'on vous donne. Et effectivement, j'ai dit un peu vite qu'il y avait autant de café que dans un expresso. Alors, c'est vrai, c'est totalement
faux. Dans le chocolat
faux.
Que dans un expresso, c'est ça. Hein,
ouais, pardon, à chaque fois je dis ça, je te l'ai déjà dit en vocal tout à l'heure. Donc, j'ai dit qu'il y avait autant de café dans un carré de chocolat noir que dans un expresso. Donc, en fait, c'est totalement faux. Je m'excuse de cette erreur. Donc, merci à Véronique de sa vigilance et de son attention. Ça fait vraiment plaisir parce que ça prouve qu'on est écouté, que ce qu'on raconte, bah, ça a du sens pour vous. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, j'ai recroisé des données, celles que Véronique m'a partagé, mais aussi d'autres données que moi j'avais. Il s'avère qu'en fait, effectivement, le chocolat, il y a beaucoup de caféine. On peut envisager le fait qu'il y a 72 mg de caféine dans 100 grammes de chocolat. Pardon, je vais y arriver. Dans 100 grammes de chocolat noir. Donc ça veut dire que c'est du chocolat à 80%. Sauf qu'il y a plus de caféine, plus le chocolat est noir. Donc, si jamais on prend du chocolat cru, en fait, ça peut monter jusqu'à 120, 130 mg de caféine pour 100 grammes de chocolat noir brut. Donc, et pour information, il y a 145 mg de caféine dans 100 ml de café. Donc, on voit bien que sur du chocolat à 100%, on est sur des taux qui sont identiques. J'avais raison sur ce point, mais en fait, je n'ai pas fait le ratio avec le carré parce qu'on mange jamais 100 grammes de chocolat. On va manger un carré qui fait 5 ou 10 grammes. Allez, il y a peut-être des gourmands qui vont manger 15 ou 20 grammes. Mais c'est vrai que le chocolat noir, on n'a pas tendance à souvent en manger autant que du chocolat au lait. Alors, je vois Bertrand qui fait genre, il n'est pas concerné, mais... Moi, je vais moins tomber facilement dans une tablette de chocolat noir que dans une tablette de chocolat au lait. Je pense qu'on se laisse moins avoir parce qu'il y a le goût du sucre. Surtout du chocolat à 100%, qui est en partie amer. Donc voilà. Donc du coup, rectification. On voit bien que oui, il y a de la caféine. Et ce qui reste quand même intéressant en termes de comparaison, c'est que pour 100 grammes donc de chocolat à 80%, j'ai dit, on est à 75 mg. Et comparativement, si on fait du café instantané, vous savez, le café qu'on a le matin, là, il y a 56 mg de caféine dans 100 ml de café instantané. Donc, on voit quand même bien que ça dépasse, en fait, ça dépasse très largement le taux de caféine. Et si on compare avec le thé, on est à 20 mg quand on traduit la théine en caféine. Donc, voilà. Donc, du coup, on voit quand même que le chocolat, il se place de manière très haute. C'était un peu le message que je voulais faire passer. J'ai dû être totalement dans l'extrapolation et je m'en excuse, mais c'était le message que je voulais faire passer, de dire que oui, il y a beaucoup de caféine dans le chocolat. Et donc, faites attention au chocolat aussi pour cette raison, parce que une nouvelle fois, la question de la caféine, c'est est-ce qu'on est hypersensible ou pas à cette caféine? En fait, c'est ça qui est important. Parce qu'il y a des personnes qui vont super bien la tolérer et qui vont pas avoir de problème avec ça. Donc encore merci à Véronique pour son attention, pour sa vigilance, pour sa rigueur aussi, qui m'a envoyé des sources. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. C'est bien de voir que vous nous écoutez avec attention et que finalement, ce qu'on vous raconte, vous ne le prenez pas au pied de la lettre, même si dans l'absolu, bien sûr, hein, sur le reste, on essaye d'être le plus rigoureux possible dans ce qu'on vous raconte. Hein, c'est pas parce qu'il y a une erreur qui traîne comme ça de temps en temps que tout le reste est à jeter, attention. Hein. Mais c'est vrai que c'est important aussi de préciser que moi, je trouve que c'est bien, on aurait pu ne rien dire. Je trouve que c'est bien de montrer qu'on est soucieux de la justesse et on aurait pu laisser passer tout ça comme si de rien n'était. Ça prouve que nous aussi, on est rigoureux dans notre travail de recorrection, d'amélioration de la qualité. Et ça, c'était important qu'on le souligne parce que c'est facile, en fait, de faire, entre guillemets, des épisodes de podcast dans lesquels on se réécoute pas, on se relit pas, on corrige pas. Voilà, c'est facile. On est sur un niveau de parole, comme on l'a dit, qui est comme ça sur le thème de la discussion, de la spontanéité. Malgré tout, avec Bertrand, on réécoute les épisodes, on essaie d'être attentif aux éventuelles coquilles. Et voilà. Donc, s'il y en a, on est, bien sûr, on est humain, on reste humain. Errare humanum est, comme j'aime bien le dire.
Bon, voilà, ça c'est dit. Merci vraiment, Véronique et tout. Alors, on va enchaîner sur les questions, hein, je te propose. Il y en a quoi, deux ou trois questions. Il y en a une qui est pas liée du tout à la thématique, mais qui est sur l'organisation du travail et le 3-8.
Louis a raison, hein. On a eu un message de Louis aussi sur Instagram qui nous dit coucou, vous aviez annoncé l'idée de parler des 3-8 et puis finalement donc on a été tellement bavard Louis la semaine dernière que effectivement en fait il y a des fois où la plupart du temps on a un script hein, qui est écrit, on a un plan, on a une trame, on sait où on va et en fait quand on voit le temps qui défile, on se donne comme objectif de jamais dépasser trop 1h15, 1h20, 1h30, sauf quand Bertrand rajoute des pièces de 10 balles, mais bon, ça c'est pas forcément toujours le cas. Donc là
toujours
il est muet en fait.
Des hommes,
là il est muet. Ah bah oui, là aujourd'hui tu vas, ça va être logique.
Il en prend plein la tête.
Ouais, c'est ça. Et donc, on avait dit que c'était toi qui devais me taquiner et pas moi, mais au final c'est bien l'inverse. Donc effectivement, on est passé à côté de ça parce que j'ai chanté ce truc en me disant c'est peut-être pas si important. Il semblerait que vous ayez des personnes parmi vous qui travaillent en 3-8. Donc l'idée, on remet dans le contexte de l'épisode de la dernière fois, l'idée c'était comment retrouver de l'énergie, comment ne pas avoir de fluctuations d'énergie au cours de 24 heures. Donc forcément, les 3-8, ça induit une problématique de la désynchronisation du rythme biologique. Ça c'est très compliqué. Alors globalement, moi le 3-8 que je connais, tu vas me dire Bertrand ce que tu sais toi de ça, mais moi, je ne connais qu'une organisation où les personnes tournent, en fait. C'est-à-dire, ils restent pas toujours sur la même... Ok, ça va, on parle de la même... Enfin, peut-être qu'il aurait pu exister des 3-8 où, finalement, la personne faisait toujours des nuits. Mais ça, c'est autre chose, c'est faire des nuits, par exemple.
Oui, moi, je connais tous les 3-8 que je connais, en tout cas. Et je crois que Louis II, par rapport à... Il me semble avoir vu, en plus, que c'est bien une fois le matin, une fois le soir, et puis qu'il doit y avoir de la nuit pour certains. Il y en a qui sont en 2-8 aussi. Il y en a qui tournent l'équipe du matin, d'autres équipes du soir. Donc on est plutôt en 2-8, il y a les 3-8 avec ceux qui font effectivement la nuit, avec des qui tournent. D'ailleurs, je sais pas si tu peux vraiment, si la législation, ce qu'elle dit là-dessus, si quelqu'un peut rester.
Je vous avoue que moi je suis pas calée, donc c'est pour ça que je préfère poser la question. On va partir du postulat. De toute façon, l'idée c'est de poser une base et puis après on pourra toujours en discuter hein, s'il y a des personnes qui travaillent de nuit qui veulent qu'on revienne dessus. Mais on va partir du postulat que c'est du 3-8 et que c'est vraiment une alternance, des changements permanents. Continuellement dans le temps de travail. Donc déjà le premier conseil, alors après ça dépend pas de vous, mais c'est au sein des équipes, c'est peut-être des suggestions à faire éventuellement au sein de l'équipe et à la personne qui vous manage, c'est que la rotation elle se fasse dans le sens horaire, parce qu'en fait il a été démontré dans des études qu'il était plus facile de récupérer et d'absorber la fatigue et de récupérer en termes de fatigue quand on est dans le sens horaire, donc de faire matin puis après-midi puis soir. Puis matin, puis après-midi. En fait, on va arriver à beaucoup plus se resynchroniser dans le sens où on va sentir la fatigue. C'est exactement comme le fameux jet lag quand on part loin. C'est toujours plus facile de faire Paris-New York en arrivant à New York parce que finalement, on sent la fatigue parce qu'on est dans le même sens que la rotation de la Terre. Alors que quand on revient, on est dans le sens contraire de la rotation de la Terre et là, on subit énormément et le décalage horaire est beaucoup plus compliqué. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, pour éviter en fait de se désynchroniser de façon importante au niveau de son cycle circadien, un autre conseil qu'on va donner c'est d'avoir des cycles courts. Donc d'essayer de rester 2 à 3 jours par semaine sur le même poste. Ça c'est pareil, hein, c'est dans l'absolu bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est des logiques managériales qui vont être mises en place. Et le meilleur rythme en fait c'est ce qu'on appelle la rotation lente, c'est-à-dire une semaine voire plus sur le même poste, mais ça c'est vraiment très difficile à supporter parce que finalement on va commencer à changer d'heure au moment où on s'adapte, donc il faut surtout pas rester sur un rythme très lent, très installé, parce que le but c'est quand même que le corps finalement il ne s'habitue pas à un rythme, parce que ça va être plus difficile pour l'organisme de se réadapter une fois qu'il sera un petit peu adapté que de pas jamais s'adapter. Voilà. Donc après, concrètement, nous, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Ça va dépendre de... Dans le 3-8, comment on est. Moi, je pense que un travail du matin ou l'après-midi, on est sur des horaires un peu classiques, même si ces deux ou trois jours se succèdent, sont consécutifs à des nuits. Donc l'idée ça va être de toujours essayer de jouer sur la progressivité et l'adaptation, c'est-à-dire de venir toujours essayer de rattraper 1 heure, puis 2 heures, puis 3 heures, surtout si vous êtes sur un rythme avec des cycles courts, d'essayer de grappiller 2 heures de sommeil par jour. Ça peut être un bon objectif pour essayer de se resynchroniser petit à petit. L'autre question, c'est est-ce qu'on fait des siestes, est-ce qu'on fait pas de siestes? Ça dépend vraiment de chacun. Moi, je pense que déjà, la sieste longue, elle est à bannir parce que clairement, ça va rajouter de la désynchronisation dans l'organisme et finalement, on ne va pas récupérer. Par contre, des micro-siestes, ça peut être très intéressant, quitte à le faire deux fois dans la période de repos. Deux micro-siestes, une plutôt au tout début de la période de repos. Donc, on rentre de la période de travail, on mange, on fait une micro-sieste. Quand je dis micro-sieste, c'est 15 minutes, 30 minutes maximum. Ça, il y a un bon truc. C'est en fait, après, il y a des personnes qui ont des difficultés à s'endormir, donc il faut quand même un tout petit peu dormir dans la micro-sieste. L'idée de simplement, par exemple, laisser tomber un crayon ou pas dans sa main, moi, je suis pas très fan parce qu'au final, c'est juste au moment où on commence à vraiment s'endormir en fait et on se repose pas vraiment. Moi, je suis plutôt pour de mettre un réveil et de se bloquer 30 minutes et quoi qu'il arrive, au bout de 30 minutes. Donc partir là-dessus et après tout de suite enchaîner avec de l'activité physique pour remettre le corps tout de suite en mouvement, mais ça peut être de l'activité physique douce, hein. Ça peut être simplement aller marcher une heure pour resynchroniser le corps et aussi pour profiter de la lumière naturelle, parce qu'en fait c'est ça le problème dans les 3-8, c'est qu'on est décalé vis-à-vis de la lumière naturelle. Moi, je pense que sur un travail de nuit, alors après, ça dépend hein, comment on vit le truc aussi et tout, mais moi, je pense que caler de l'activité physique très tôt le matin, ça peut être intéressant, et d'essayer de repousser un petit peu le temps de sommeil sur le début d'après-midi, si c'est possible, de telle manière à faire, entre guillemets, un peu une sieste, pour le coup, et derrière, de dormir le soir. Après, c'est compliqué, parce que finalement, chacun va trouver son rythme. Chacun va trouver son rythme, mais globalement, il y a trois facteurs sur lesquels vous pouvez jouer, et sur lesquels, en fait, le meilleur conseil qu'on peut peut-être donner en termes d'individualisation, c'est d'essayer de tenir un carnet, un journal de bord, dans lequel vous essayez des stratégies sur au moins 3 semaines. Parce que clairement, il faut 3 semaines pour que le corps s'habitue. Et il faut prendre les 3 paramètres de Bertrand, hein, par exemple SAM, sommeil, activité, sommeil, alimentation et mouvement. Et vous faites fluctuer un des paramètres sur 3 semaines. Donc le sommeil, vous calez des siestes, vous essayez un truc en termes de sieste par rapport à ce qu'on vient de dire. Ensuite, 3 semaines après, vous stabilisez le paramètre sommeil en termes de sieste et vous jouez sur la question de l'alimentation. Et 3 semaines après, vous jouez sur la question du mouvement, de l'activité physique, qu'elle soit d'exercice ou de non-exercice. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans une activité physique intense. Et en fait, je pense que c'est ça le meilleur conseil qu'on peut vous donner en termes d'individualisation, c'est de trouver pour vous quelle est la meilleure combine, quelle est la meilleure combinaison entre les SAM, entre le SAM de Bertrand, et parce que c'est vraiment le triptyque magique, et c'est comme ça que vous allez trouver votre propre routine en fait. Et peut-être que d'une personne à l'autre, la micro sieste ça va bien fonctionner, chez d'autres la sieste est nécessaire, chez d'autres c'est plutôt de l'activité physique en début de journée, en fin de journée. Mais en tout cas, le but c'est de trouver votre propre stratégie, et vous ne le saurez qu'au bout de un minimum trois semaines, et surtout en notant les choses. Parce que quand on note pas, en fait, on a tendance à déformer la réalité et c'est vraiment très important. Donc je pense que c'est, je sais pas ce que t'en penses Bertrand, mais je pense que c'est un bon conseil.
Oui, mais moi je suis de toute façon toujours pour le journal en fait de noter. Moi-même je note mon sommeil tous les jours. Hein. Je note à quelle heure je me couche, combien j'ai de réveil dans la nuit et à quelle heure je me lève le matin. Je regarde et en face je mets un petit truc, un petit smiley en notant mon humeur. Ouais. Donc tu vois, c'est mon truc comme ça. J'avais mis aussi dans une pépite dans le Sardonic Club à partie payante. Et sur mon site j'ai une formation sur le sujet, sur un petit programme aussi là-dessus. Où c'est le conseil que je donne, où je montre un petit peu le modèle en disant que sur l'été, par exemple, quand on est en vacances, si on veut connaître ses heures de sommeil, c'est pas mal de noter quand on est bien reposé, de voir finalement comment notre sommeil se cale et le noter. Parce que en disant oui, il me semble que je me couche à telle heure, il me semble que je me lave à telle heure, il me semble que je fais ça. C'est il me semble que n'est pas en fait un bon.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Je suis content que tu sois d'accord avec moi.
Mais je suis tout le temps d'accord avec toi. Non mais alors ça y est. Non mais t'es con. Ah. Alors, pour information, c'était le défi du jour. En fait, mon t'es con est affectueux. Je le dis à Bertrand 15 000 fois par jour en ce moment. Et Bertrand m'a dit même pas chiche ce soir pendant l'épisode. Donc voilà, c'était le défi. Il fallait
que je t'ai pas dit si je les compte, en fait.
Ah, ouais, c'est ça, comme les smileys du matin.
Okay. C'est ça.
Pour pas être subjectif. Tu vois, on est pertinent.
Exactement.
Même.
Et voilà,
dans la
pour avoir un indice de pertinence et de savoir de combien de fois je suis con dans la journée.
Enchaînons les questions, mon cher Bertrand.
Oui, je te laisse lire la suivante.
Alors, pour information, quand on prépare le script, Bertrand prépare des questions que je ne lis pas, que je découvre. J'aime bien les découvrir au moment pour y répondre, sauf quand elles sont compliquées et qu'il me dit « Attention, il y a des questions compliquées », donc parfois je les lis en amont. Et là, il s'avère que je n'ai pas tout lu. Il y en a une petite et en fait, c'est pas une question, Bertrand. Donc, je la lis. Question, donc je lis tout
? Vas-y, tu peux y aller. Hein.
Donc, question d'un fan, alors, entre parenthèses, Bertrand. C'est toi qui as posé la question ?
Oui.
Je comprends rien. Ah, ok, donc c'est Bertrand qui me pose une question. Tu ne trouves pas que Bertrand parle trop, tu devrais lui clouer le bec. Donc, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pourrais disserter pendant une heure et demie là-dessus. Mais je pense que nos auditeurs ont beaucoup d'autres informations à entendre. Mais non, je ne pense pas que Bertrand parle trop et non, je ne lui clouerai pas le bec. Voilà. Je pense que c'est pas mal comme réponse.
Non, en fait, c'était l'histoire, c'est que je reçois plein de messages de gens qui disent, ouais, Laure, les conseils qu'elle donne, c'est génial, etc. Et un jour, je vais finir par dire, un jour, j'ai laissé les clés du camion à Laure. Je vais juste faire l'intro. Je vais te laisser, je reviendrai tout à la fin. Mais voilà, c'était la blague. Mais c'est vrai que j'aime bien parce que je reçois beaucoup de messages en fait disant qu'ils adorent l'énergie.
En même temps,
l'énergie.
C'est un peu le but du format. Hein, voilà. Je le rappelle, c'est un peu le but du format. Le but, c'était que je donne ma petite graine. Hein, si on te laisse la parole, toi,
bien
t'as des choses
sûr,
à raconter aussi.
Bien entendu. Bon, allez, okay. C'était une petite boutade pour l'ambiance.
C'est pas mal. J'aime
on passe
bien.
Sur la
je
dernière
valide.
Question. Et c'est une dernière question qui est très intéressante, qui va nous permettre après de passer sur le sujet des hommes et des femmes. Alors, en plus, pour ça que je rigole, parce que la question a été posée explicitement pour toi, Laure. Enfin, franchement, j'ai mis un copier-coller, donc c'est David qui se reconnaîtra. Et la question, je vais la lire entière parce que comme ça sera plus simple. Courir en couple ou seul, j'avoue que j'hésite entre faire mon marathon seul à mon rythme ou courir avec Chloé, sa femme, et se faire un souvenir à deux tout en ayant peur de ne pas courir au bon rythme. J'ai l'impression quand on court ensemble que c'est plus fatigant de courir à une allure plus basse que la mienne. Bon, déjà, il y a une notion sur les différences d'allure. Et là, la question pour Laure, et c'est vraiment marqué comme ça, donc je te l'ai mis comme ça, c'est pour ça que je rigole. Courir une allure qui ne semble pas naturelle plus lentement peut-il être plus dur qu'avec une allure plus rapide ? Sachant que, je vais rassurer David sur cette histoire-là, ce n'est pas la seule personne à m'avoir posé cette question. Là, lui, il parle de côté couple. J'ai eu quelqu'un aussi qui suit un plan d'entraînement sur des vitesses, sur des allures, et en fait, sur laquelle il finalement était trop lent, il trouvait que ça foulait, peut-être se dégradait, qu'il se trouvait plus fatigué quand il courait lentement avec le plan que quand il courait naturellement à sa vitesse habituelle. Et donc, c'est une vraie question que beaucoup de gens se posent, hein, cette histoire de fatigue qu'il peut y avoir. Et donc, la fin de la question de David, c'est qu'il n'a pas spécialement envie de s'engueuler pendant la course non plus, et que c'est un risque, et que c'est quand même potentiellement un soutien de courir à deux. Donc, les gars du club de Chloé, parce qu'elle court en club, lui déconseillent une course à deux et donc demande un avis. Alors après, il nous met les temps, en fait. Hein. Chloé veut partir sur entre 6 minutes 50 et 7 minutes au kilomètre. Et lui, 6:30, hein, à peu près au kilomètre, sachant qu'il est plus rapide que Chloé. Donc, l'histoire, c'est qu'ils font un marathon Barcelone, hein, ce qui doit être dans 15 jours, un truc dans le genre-là. Donc, c'est le moment de la stratégie. J'ai eu sur le podcast un couple qui a fait New York, ils avaient décidé de le faire à deux tout le long. Lui, ça veut dire qu'il s'était aussi, sur les marathons qu'ils ont fait à deux, il avait choisi de dire, bah, on va courir, c'était l'épisode avec Fabien, de dire que de courir plus lentement. Et voilà, c'est une vraie question que beaucoup de couples se posent, et on voit que c'est un vrai truc.
Une super question. Alors... déjà, on va tout de suite dire qu'il n'y a pas de bonne réponse. Pour moi, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a plein de possibilités. Mais la bonne réponse, en fait, elle viendra de ce que David et Chloé ont décidé d'adopter, c'est-à-dire pour eux, le meilleur conflit entre la contrainte et la ressource pour eux. Mmh. Alors, courir en dessous son allure, c'est possible. Hein. On a des lièvres qui font les allures, notamment chez les femmes. Souvent, ce sont des hommes qui font les allures des femmes. Et clairement, ben, ces hommes-là, ils sont pas loin de leur meilleure perf. Ils sont pas à leur meilleure perf parce que pour être lièvre, il faut pouvoir être relativement disponible intellectuellement, attentionnellement. Et je rappelle, hein, plus on va vite, moins on a d'attention, plus notre dynamique attentionnelle, elle baisse. Le lièvre, c'est aussi la personne qui va renseigner la tête sur la bonne direction à suivre, sur les éventuels obstacles. C'est la personne qui va vraiment devoir gérer le chrono, etc. Donc, beaucoup de lucidité. C'est aussi la personne qui souvent va prendre les ravitaillements sur la table de ravitaillement, parce que c'est souvent pas les athlètes qui le prennent. Donc, on voit bien que le lièvre, entre guillemets, il a un rôle déterminant. Et pourquoi je parle de lièvre ? Ben parce que là, en l'occurrence, David, il pourrait tout à fait se mettre dans, entre guillemets, dans la peau d'un lièvre pour Chloé, c'est-à-dire permettre à Chloé de vivre un marathon dans, entre guillemets, les meilleures conditions possibles, sachant que elle va être sur des intensités qui vont être plus proches de son allure marathon, plus proches de son allure cible. Et effectivement, David serait sur des allures un petit peu plus basses. Alors, moi, je effectivement, c'est pas naturel de courir plus lentement. C'est pas naturel. Pour autant, c'est aussi plus compliqué pour David de courir plus lentement que pour un lièvre à très haut niveau. Pour quelle raison ? Bah, c'est un petit peu l'explication que je donnais l'autre jour sur la question du fait qu'on se rapproche plus ou moins de la VMA, ou plus ou moins de la vitesse de transition entre la marche et la course. En l'occurrence, là, l'allure vers laquelle Chloé va aller, on se rapproche de cette transition biomécanique naturelle pour nous en tant qu'hommes de marche-course. Je rappelle, hein, la transition, ça a été étudié que globalement, de 7,2 à 7,8, c'est des allures de transition qui biomécaniquement sont naturellement davantage orientées vers de la marche ou vers de la course. Donc, je comprends David sur le fait que cette allure, pour lui, elle n'est pas naturelle dans le sens où ça va se rapprocher potentiellement d'une allure de marche. Donc, dans laquelle, si on le met sur un tapis roulant, spontanément, il va adopter une motricité de marche. Voilà. Donc, c'est sans doute ce qui va faire que ça. Mais sinon, d'un point de vue physiologique, on peut courir à 50, 60, 70%, on est en endurance fondamentale. Donc, d'un point de vue physiologique, on peut vraiment tenir des allures très, très lentes. Après, il y a autre chose. C'est qu'en fait, le problème aujourd'hui, on ne sait plus courir lentement. On ne sait plus courir lentement. Je dis plus parce que je pense vraiment qu'à l'époque de, même déjà de mes parents, de mon père qui a fait beaucoup de sport et qui a fait beaucoup de triathlon, mon père, il m'entraînait petite et je vois bien, il courait avec moi. Donc, il courait très, très doucement à l'époque. J'étais toute petite, j'avais 8 ans, 7, 8 ans. Et donc, ce que je veux dire, c'est que pourquoi aujourd'hui je dis plus? Bah parce qu'on est quand même beaucoup dans une logique de comparaison, rien qu'avec Strava, je veux dire, c'est complètement rentré dans nos mœurs, c'est rentré dans notre quotidien. Tout le monde partage tout sur Strava et rien que quand on est en footing, bah on se dit ah bah si je le partage sur Strava, je me vois pas faire de la marche dans mon footing, je me vois pas courir à moins de telle allure et tout. Donc inconsciemment en fait, on est sans cesse en train de se mettre la pression. Et en fait inconsciemment, on est sans cesse en train de courir à des allures qui sont trop élevées par rapport à notre allure d'endurance fondamentale. Et je le rappelle, hein, enfin et toi aussi, tu en avais beaucoup parlé, Bertrand, hein, dans plein d'épisodes. Hein, pour être performant, il faut savoir courir doucement en fait, parce que c'est vraiment là qu'on construit une sorte de seuil, de stabilité, de base de travail qui est très importante. Donc moi, je pense que David, sa problématique, c'est sans doute que vous avez du mal à courir doucement. Je sais pas comment je dois employer, mais du coup, je pense qu'il y a vraiment cette idée là. Mais après, physiologiquement, c'est possible. Alors moi, j'ai une stratégie qui va être intermédiaire et qui est super pertinente pour le marathon. Le marathon, on sait aujourd'hui, grâce aux travaux de Véronique Billat, qu'en fait, il y a une fatigue musculaire qui est induite par la casse des fibres musculaires qui elle-même est liée au fait qu'on a toujours la même motricité pendant 42 km. Or, plus on va courir doucement, plus on va avoir cette même motricité longtemps. Donc, plus on va avoir une usure prématurée des fibres musculaires et donc, on va casser de la fibre musculaire de manière prématurée. Donc, le conseil que j'ai envie de donner à David, qui serait un peu une formule hybride pour pouvoir courir avec Chloé, ça serait de faire des kilomètres avec Chloé, des kilomètres un peu charnières, les kilomètres des ravitaillements, dans lesquels il se donne un petit peu comme objectif de l'aider à... Elle peut ne pas s'arrêter à la table, elle peut parce que si Chloé reste régulière, ça peut être bien pour elle, parce que je pense qu'elle va adopter une allure, elle va essayer de la suivre. Donc David peut engendrer le rôle du lièvre, du ravitailleur, dans des moments un peu difficiles où il y a du vent, où ils sont un peu isolés, exposés, ben peut-être se mettre devant elle et essayer de la tirer un petit peu. Et puis sur des moments où Chloé se sent bien, où elle a envie de profiter de l'ambiance, où elle sent que c'est un peu plus cool, David peut tout simplement faire du fractionné, sans forcément passer d'une allure très très lente à une allure très rapide, mais de jouer en fait sur quelques dizaines, vingtaines de secondes, améliorer l'allure. Et donc après, avec une récupération très très lente, laisser Chloé revenir, attendre Chloé. Ou alors là, faire carrément le foufou et faire des allers-retours. Donc, bien sûr, à la fin, il n'aura pas fait un marathon, il aura fait plus. À lui de voir. Mais moi, je trouve que c'est une stratégie qui est intéressante. Et en fait, musculairement, David va énormément s'y retrouver par ces petites accélérations, parce qu'il va vraiment avoir beaucoup moins de casse de fibres dont je viens de parler et de dégradation, en fait, de la foulée, quoi. Donc, voilà. Bah moi, c'est l'idée que je donnerais, c'est la réponse que j'apporterais. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bertrand, ce que tu...
Bah, moi, tu vois, je t'ai mis un ça dépend, en fait, et c'est surtout, en fait, de savoir ce qu'ils veulent avant, quoi. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils veulent le
Mais,
souvenir?
j'avais même pas vu ce que tu m'as mis. J'avais
Est-ce
pas
qu'ils
vu.
veulent le souvenir ou est-ce qu'ils veulent le temps? C'est-à-dire que, est-ce que chacun, parce que, bon, je sais que c'est leur premier marathon.
Bah, moi, j'ai fait un compromis entre les deux, quelque part.
Toi, t'as fait un compromis entre les deux, exactement. On pourrait avoir plein de stratégies, en fait, mais je pense qu'il faut se mettre d'accord et avoir un accord pour changer de plan, en fait. À un
Moi,
moment donné.
je suis tout à fait d'accord avec toi.
Ouais,
Mmh,
il y a
je
un
suis tout à
truc,
fait.
c'est de dire au départ, eh ben écoute, et c'est ce que, c'est franchement, l'épisode, on n'avait pas sur le marathon de New York, c'est ce qu'ils avaient, comme accord, ils ont dit, bon, on le fait ensemble pour le souvenir, pour faire ensemble, etc., pour se soutenir et autres, quelle que soit la vitesse de l'un et de l'autre, ils avaient pris l'accord de le faire ensemble depuis le départ. Là, je pense que c'est d'abord une décision de couple et.
Bien sûr.
C'est sûr que les gars des clubs, moi je les connais, les gars des clubs, je suis d'accord et tout. Il y a des gens de club, ils sont dans l'esprit performance, battre son record, etc. Et c'est vrai que si tu te prépares en disant je veux courir mon marathon, le meilleur, ma meilleure performance, etc. Et tu peux avoir te dire bah c'est dommage de faire un mauvais temps parce que je vais courir avec ma femme. Mais en fait le plaisir de la course. Il peut être très bien être justement de dire, et eh on se fait un super souvenir, et les deux, on le passe l'arrivée main dans la main, quoi qu'il arrive. Ça, c'est un choix de départ. C'est leur choix, en fait. Et une fois qu'ils se sont mis d'accord, qu'ils l'assument, en fait, là-dedans, ils peuvent avoir un changement de plan en disant, bah, finalement, je sais pas, ça se passe pas comme il faut, ou alors même, l'un peut avoir un problème, en fait, hein, et ça peut être très bien, David, il peut se prendre des crampes, etc. Et puis, Chloé peut être super frustrée en disant, mais attends, qu'est-ce que je fais et tout. Donc, ils se mettent d'accord sur le plan de départ, ils se mettent d'accord, pour moi, sur bah, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, il y en a un qui sent pas bien, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je l'attends, est-ce que je l'attends pas. Dans les deux cas, ne pas partir du principe que c'est forcément Chloé qui va être plus lente, parce que moi, je pense aussi que le risque qu'il peut y avoir pour David, c'est de partir sur une allure qui est peut-être un peu élevée par rapport à sa préparation, et qu'il peut voir une Chloé qui va arriver derrière et qui pourrait aussi dire, bah, mais moi, je me sens vachement mieux que ça et tout, parce que sur une fois lancé sur la longueur, pourquoi pas? Donc, se mettre d'accord. Mais surtout, je pense qu'il faut que. Pourquoi se mettre d'accord? C'est pour éviter la frustration, en fait. C'est-à-dire de ne pas arriver à la fin et s'engueuler, ça serait dommage, quoi. Ils se payent un beau voyage, Barcelone, famille, premier marathon et tout. Ils ont fait des efforts. En plus, je crois que David courait pas du tout au départ. Donc, c'est Chloé qui le met à la course. Ça serait quand même dommage d'arriver au bout et de se dire putain, franchement, t'étais trop pénible, etc. Voilà, moi, mon avis, en tout cas là-dessus. Moi, je sais que, par exemple, c'est pas un marathon, j'ai fait un 5 km un jour avec ma femme, et on avait dit, je lui dis, je reste au bout, jusqu'avec toi au bout, par contre, je fais le lièvre. Exactement, c'est ce que tu avais dit, j'ai dit, je fais le lièvre. Et j'ai dit, bah écoute, dans les derniers et tout, alors je l'ai un peu poussé à la fin pour qu'elle arrive à aller vers son meilleur temps et tout, mais c'était le choix. Et je sais que l'année d'avant et l'année d'après, j'ai fait des meilleurs temps sur cette course-là, mais cette année-là, on avait décidé que je faisais le lièvre et qu'on le ferait ensemble, quoi qu'il arrive, et que je la
Ouais,
lâcherais
alors
pas.
après, il y a quelque chose dont j'ai pas parlé et qui me semble important, c'est qu'en fait, on n'a pas remis au centre la question de l'objectif, et ça rejoint donc ce qu'on disait en rebond avec l'épisode de Nathalie Simon mercredi, c'est que quel est l'objectif pour vous, en fait, David et Chloé? Et c'est ce que tu dis là, quelque part, Bertrand. Enfin, moi, je pense, après, c'est mon avis, je me trompe sans doute, hein, mais je pense que quand on fait un marathon en couple, notre objectif, c'est pas la perf. Notre objectif, c'est de boucler le marathon, de prendre du plaisir, de vivre, comme ils le disent, un moment à deux et d'avoir ce souvenir-là. Et les souvenirs seront d'autant plus nombreux que vous allez passer du temps ensemble. Après, clairement, physiologiquement, il n'y a pas de risque à courir trop lentement. Faut vraiment se dire ça aussi, ça c'est important, quoi. C'est-à-dire que quand on fait du trail, on est hyper lent. Bah, sur un marathon, on est hyper lent aussi. Alors après, ça n'empêche pas vraiment d'alterner de la course et de la marche. Pour David, ce qui peut être vraiment profitable d'un point de vue biomécanique, comme je l'ai dit. Mais moi, je pense qu'il faut bien se fixer l'objectif. Et en l'occurrence, de toute façon, enfin, je pense que la réponse, elle est déjà trouvée dans le sens où s'il nous pose la question aujourd'hui à 15 jours du marathon, c'est clairement qu'on n'est pas dans une logique de perf. Quand on est à 15 jours du marathon, on sait exactement où on va et on sait exactement quel temps on veut faire si on est dans une logique de perf. Voilà. Et moi, je vois aussi très bien de quoi il parle. On a évoqué avec Bertrand l'idée, on va tout faire pour avoir au moins 2 dossards pour le marathon pour tous sur les Jeux. On est en train de tout faire pour. On est en train de faire beaucoup de démarches. On aimerait beaucoup vous faire vivre tout ça. Voilà, c'est annoncé. Au moins, là, on s'engage encore plus. Et ce qu'on en parle avec Bertrand depuis très très longtemps. Donc, si à bon entendeur, hein, si quelqu'un a les moyens de nous aider à vivre ce rêve, bah d'ailleurs, tiens, c'est très bien. on communique et on le dit, hein, c'est un rêve pour nous, mais clairement on s'est dit et l'un et l'autre que si on faisait ce marathon-là ensemble, quoi qu'il arrive, on le ferait ensemble. Et moi, je, a priori, sur le papier, je suis peut-être un tout petit peu plus rapide que toi, mais encore, c'est pas sûr.
Le a priori n'est pas a priori, le a priori est sûr et certain pour l'instant.
Un record à 3h30 sur marathon.
3h46 parce que j'ai pris le mur, mais c'est en fait j'étais parti sur 3h30, mais j'étais pas prêt pour faire mon 3h30.
T'es un tout petit peu moins rapide que moi,
mais avec une coach en performance, tu verras, c'est
grave. Non, mais voilà, après clairement, si on là en l'occurrence, moi si je cours avec Bertrand, je courrais pas du tout pour faire une perf, alors que je pense que d'ici là, je vais essayer de faire d'autres marathons en faisant d'autres perfs. Sauf que voilà, donc l'objectif, il est très clair, et pour le coup, ça rejoint un petit peu les écarts avec Chloé, hein. Chloé et David, on serait vraiment sur la même logique, et moi je vais courir doucement, et c'est pas parce que je vais courir doucement que je vais me fatiguer, ou parce que voilà, donc enfin plus doucement que toi, arrête de faire ta moule.
J'étais en train de t'imaginer en tant que lièvre devant moi,
je te prendrai le petit marito,
je te dirai attention, fais-moi attention au trottoir, moi je veux de l'eau mais pas trop chaude, et puis si tu peux me choper le petit bout carré de chocolat là-bas qui est pas rempli de caféine, s'il te plaît, ça me ferait du bien.
Je te ferai tout ça, il y a zéro problème, tu le sais très bien. En plus,
ça remercie,
je te protégerai du vent à la sortie des tunnels.
Ah ouais, alors ça, parce que la Vichy t'a habitué de courir avec le vent, donc là aucun problème,
je te tirerai dans la côte. Bon, bref. Donc voilà, donc je pense qu'on a pas mal répondu à David et Chloé, mais en tout cas merci pour cette réponse qui est vraiment intéressante, qui nous sort des sentiers battus et qui nous permet aussi de faire le lien avec l'épisode d'aujourd'hui. Donc on rebondit, hein, l'épisode d'aujourd'hui, ça va être vraiment de comprendre un petit peu. J'enchaîne, Bertrand ?
Oui, vas-y, enchaîne, parce que t'as commencé, j'ai mis exprès la phrase de dire que c'était une bonne transition, donc t'as enchaîné sur la transition, donc c'est parfait.
J'avais même pas vu, mais tu m'avais bien préparé, parce qu'en fait Bertrand il me prépare à l'épisode toute la journée, il me coach et tout. Bref. Non, tu m'avais bien préparé, c'est vrai que tu me l'avais bien vendu comme ça, et tu as raison, c'est parfaitement adapté. Donc du coup, aujourd'hui, le but, ça va être, au départ, on s'était donné comme objectif de parler de la spécificité de la femme et des conséquences sur l'activité physique, et de parler aussi du cycle, mais à mon avis, je pense que vu le temps, on va pas avoir le temps encore, mais c'est pas grave, donc on va faire ce qu'on peut. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, moi, je déteste analyser la femme en comparaison à l'homme. Malgré tout, c'est parce qu'en fait, comparer, c'est déjà considérer que c'est différent dans le sens où c'est un peu inférieur. En gros, il y aurait une référence qui serait l'homme, et la femme ne serait pas une référence. Donc en fait, c'est pour ça que j'aime pas faire cette comparaison. Pour autant, on va faire ça parce que effectivement, on donne beaucoup d'informations. Alors sur le plan de la physiologie, vous avez bien compris que c'était quelque chose qui me passionnait. Et très souvent, quand on parle des adaptations physiologiques à l'exercice, en fait, on parle de données générales. Et très souvent, ces données générales, elles sont faites sur des populations, des cohortes mixtes, mais dont on extrait des moyennes. Alors tout de suite, avant de rentrer dans le détail, je tiens à préciser que donc les données que je vais utiliser aujourd'hui sont issues de travaux scientifiques. J'espère que cette fois, il y aura pas de coquilles. Je tiens aussi à préciser que étudier l'activité physique de la femme, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. On a très peu de données actuellement, pour deux raisons. Déjà, il y a encore 20 ans, 30 ans, allez non, je suis gentille, non, il y a 50 ans, 40-50 ans, dans les années 80, en fait, on étudiait de manière indifférenciée la performance des hommes et des femmes, et surtout, on entraînait de manière indifférenciée, presque, les hommes et les femmes. C'est-à-dire que on allait peut-être adapter un petit peu la charge, un petit peu la contrainte, mais on n'allait pas plus loin, quoi. Donc, ça fait 50 ans, bien sûr, qu'on évolue un petit peu sur les choses. Mais la problématique, d'un point de vue de la recherche, pour comprendre le fonctionnement de la femme, c'est que toutes les femmes sont très différentes. Bien sûr, tous les hommes sont très différents aussi. Mais on est surtout très différentes par rapport à une donnée, qui est la question des hormones. Mmh. On va rentrer dans le détail, hein. C'est ce qui différencie l'homme de la femme. D'emblée, on peut dire que voilà. Qu'est-ce qui fait qu'une femme est une femme? C'est qu'elle a des taux d'oestrogènes qui sont plus élevés, qui sont produits par les ovaires, alors que l'homme, il va avoir des taux d'androgènes plus élevés, dont la testostérone fait partie. Ça, c'est la première, au-delà de l'apparence sexuée, c'est ce qui va différencier sur le plan physiologique. Mais c'est ce qui d'ailleurs contribue à la différenciation des gonades, hein, dans la phase de dans le fœtus, là, quand il se différencie entre garçons et filles. Bon, faudrait que je revoie un petit peu mes cours de terminale avec les canaux de Müller, les canaux de Wolf, il y a une histoire comme ça, mais je suis pas très très calée là-dessus, mais c'est pas très grave. Globalement, au départ, on est tous garçons, et en fait, il y a une action qui se produit chez la femme, de ce que je me souviens, mais vous allez peut-être me corriger, sur le fait que du coup, nous, en fait, l'appareil génital, il rentre du coup à l'intérieur, hein. Et du coup on n'a pas de pénis apparent comme vous les hommes. Au-delà de ça, ce qui a des conséquences hein, sur la pratique, on verra, hein, notamment sur le vélo, sur d'un point de vue de la physiologie, c'est marrant, on en parlait l'autre jour, hein. Mais c'est surtout ces taux d'œstrogène et de progestérone qui sont nos deux hormones dominantes pour la femme. Au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'étudier la femme ? Eh ben, c'est difficile parce que, comme on vient de le dire, la femme, elle a un cycle menstruel. Et ce cycle menstruel, il est caractérisé justement par des fluctuations hormonales tout au long de ce cycle. Et le problème, c'est qu'il existe autant de femmes que de cycles. Donc, il existe des cycles plus ou moins courts, plus ou moins longs, avec des règles plus ou moins abondantes, plus ou moins pas abondantes, avec des problèmes, on va dire, que l'on appelle maintenant classiquement le syndrome prémenstruel, c'est-à-dire ce sont des troubles qui sont associés, qui interviennent en amont des règles et qui sont associés à tout un tas de choses dont on parlera. Il y a des femmes sous contraception, d'autres qui n'y sont pas sous contraception naturelle. Enfin, je pourrais donner des détails comme ça très très longs. Malgré tout, c'est la réalité en fait. C'est-à-dire que c'est ce qui caractérise les femmes. Et puis enfin, il y a un troisième entre guillemets, une autre catégorie, c'est la femme en situation d'aménorrhée. Donc, soit relative à du REDES, on en parlera aussi, hein, parce que j'ai prévu d'en parler quand même, Bertrand, je ne l'ai pas dit, mais je vais découvrir à Bertrand les thématiques.
T'inquiète pas, c'est une thématique que je connais maintenant, que j'ai un petit peu
oui, eu quelques invités sur le sujet. Je pense que c'est important aussi, justement, c'était mon objectif de faire des rebonds sur... C'est des rebonds a posteriori sur des épisodes d'avant. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas de données sur la femme. On n'a pas de données sur la femme parce que le principe de base même de l'étude scientifique, c'est quoi ? C'est la comparaison. Et c'est la comparaison objective. On va toujours chercher à comparer à un témoin ou à une cohorte témoin. Ou... C'est ça aussi le principe de randomisation, hein, c'est qu'on va choisir des participants de manière aléatoire pour pouvoir en fait comparer les deux groupes, un chez qui on va faire jouer une variable et l'autre chez qui on va rien changer. Donc là, on voit bien que si on prend de manière aléatoire deux groupes de femmes et qu'au sein de ces groupes, il y a une hétérogénéité qui est telle avec des paramètres qui sont tellement différents, que forcément les résultats ils sont complètement faussés. Donc c'est pour ça que pour l'instant on est encore très en retard sur les données physiologiques sur la femme. Il y a encore plein de choses qu'on ne comprend pas. Bon, moi c'est un sujet qui me passionne, bien sûr parce que je suis femme, je suis sportive, et bien sûr parce que dans nos vies en tant que femmes, on croise des femmes qui vivent des choses et on se dit ah ouais, en fait il y a quand même une grosse problématique là-dessus. Et puis aussi il y a toujours cette histoire qu'on n'en parle pas suffisamment et que ça reste quelque chose de non palpable et donc voilà. Que dire d'autre ?
On va commencer. Je peux dire un autre truc aussi, c'est que finalement aussi il y a un truc aussi, parce que bientôt il y aura des épisodes de Kilomètre 42 avec des spécialistes de l'entraînement, master par exemple à partir d'un certain âge, dans ce qui me fait penser aux femmes ménopausées, qui sont encore un cas qu'on n'a pas cité par exemple, hein, qui peut être rentré là-dedans. Et parce que je sais, il y a un chapitre complet, et j'ai un livre à la maison où il y a vraiment une partie complète là-dessus, etc., qui joue, on pourrait dire les femmes qui sont enceintes et qui font du sport, sur lequel il y a des variations. Il y a tout un tas de petites variations qui peuvent se faire comme ça aussi. Et puis, des études. J'en ai quand même vu une passer, mais ça tombe bien, c'est que j'aurai l'invité bientôt qui participe à une des études, justement, sur pourquoi est-ce que les femmes semblent être plus endurantes que les hommes. Et on voit qu'il commence à y avoir des études, etc. Mais c'est vrai que c'est... je ne sais pas à quel point les hommes sont différents entre eux ou pas, mais par rapport aux femmes, c'est vrai que tous les éléments qu'on a donnés, clairement, montrent que c'est difficile d'avoir toutes ces... De faire une vraie comparaison. Donc je pense effectivement que c'est compliqué. Puis je vais rajouter un autre truc aussi, c'est que il y a peut-être des disciplines aussi. Je vous rappelle que pendant longtemps on a interdit aux femmes de courir le marathon, que les marathoniennes sont marathoniennes depuis 1967 et que les marathons sont rentrés aux Jeux Olympiques en 1984, et que si vous cherchez sur Google femmes et marathon, il y a quand même quelqu'un qui a posé la question et des gens qui posent la question parce que Google le remonte, quelle est la distance du marathon féminin. Donc ce qui montre quand même que il y a une espèce j'ai fait une recherche tout à l'heure marathon femmes etc. et ça il y a une question qui remonte, comme quoi Google considère que c'est une question qui lui est souvent posée, quelle est la distance du marathon féminin ? Donc ce qui montre quand même qu'il y a eu un espèce de cheminement, etc., qui, c'est pour justifier le fait qu'en fait on pense que systématiquement que les femmes sont moins performantes, inférieures, etc., sur plein de choses. Mais il y a quelques études, j'en ai vu passer une, je t'avais envoyé le lien l'autre jour aussi, et on va creuser le sujet, sur le fait qu'on se rend compte quand même dans certaines disciplines, dans l'endurance longue notamment, qu'en fait, il y a des choses qui jouent et qui sont compliquées à étudier. Ça, tu as entièrement raison et c'était important de le préciser.
Yes, tu as tout à fait raison. Mais c'est intéressant. Bon, on pourra en discuter, mais moi, ça me passionne. Et on pourra peut-être faire un épisode aussi sur la question du genre et de la sociologie de la femme. Mais bon. Alors, déjà, on va commencer par poser un petit peu des constats, on va dire, un peu anatomiques, morphologiques, physiologiques sur la femme. Alors, c'était une remarque que je te faisais tout à l'heure. C'est sûr que concrètement, on va pas vous donner d'application pratique suite à ces données. Par contre, on a trouvé que nous, enfin, on s'est dit que c'était intéressant de le savoir. Après, tout le monde n'est pas forcément sensible à la connaissance, mais moi, j'ai redécouvert des choses en repotassant pour l'épisode, et je me disais, bah ouais, c'est quand même intéressant de comprendre le pourquoi du comment de certaines choses. Donc déjà, c'est une évidence, hein, mais c'est quand même, on va rien vous apprendre, mais déjà en termes de masse, on va faire le ratio entre la masse musculaire et la masse adipeuse. D'emblée, les femmes, en fait, nous, on a une masse adipeuse qui est proportionnellement plus importante que les hommes. Il y a des données que j'ai extraites. Je vais donner ma référence comme ça. La référence dans laquelle je donne mes données, c'est La Femme Sportive. C'est aux éditions de Buck Supérieur, et c'est le livre de Nathalie Boisseau, Martine Duclos et Michel Guinot. Voilà. Donc dans l'édition Sciences et pratiques du sport, donc il y a une édition scientifique dans laquelle qui fait intervenir des enseignants chercheurs, donc des chercheurs, et donc on est sur des données relativement très fiables. Donc en fait les femmes, la moyenne des femmes en termes de masse grasse, on est sur 16,8% de masse grasse, ça peut aller en fait en pourcentage de poids, donc à 28% du poids total, en moyenne. Okay, donc en fait, les femmes en moyenne, pardon, je reprends, 16,8 kg de masse grasse au total, de poids corporel, juste, et donc c'est une moyenne de 28% de masse grasse. Les hommes, vous avez 13,5 kg de masse grasse, et ce qui représente en fait 18% de votre poids corporel. Donc en fait, déjà vous êtes plus grand en général, et en plus vous en avez moins au départ. Donc, on voit bien, hein, que vous êtes à 13,5 comparé à 16,8, vous avez moins de masse grasse, et donc forcément ça occupe un prorata. Voilà. Après, on a deux types de morphologie en termes de répartition des graisses, et ça c'est intéressant. Nous, chez la femme, on va avoir plutôt une morphologie dite en poire, hein, comme on dit souvent. Avec beaucoup de hanches, et plutôt une taille assez fine et un buste assez fin. Alors que les hommes, vous allez avoir plutôt une morphologie qu'on va appeler en pomme, où en fait, ça va être rond un peu sur tout le buste. Alors ça a des conséquences, bien sûr, sur la santé, surtout, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, que la graisse viscérale est beaucoup plus nocive pour la santé, notamment le fonctionnement des organes. Mais ça a des conséquences aussi sur la performance, selon le sport pratiqué. Donc on verra ça, on rentrera dans le détail après. Et donc parallèlement, on peut étudier aussi la masse maigre. Et donc en fait, ce qu'on constate, c'est que la masse musculaire, elle est largement plus importante chez l'homme que chez la femme. Et en fait, c'est vrai non seulement en termes de kilos de poids de corps, c'est-à-dire vous avez plus de muscles. Si je reprends un petit peu des stats, la masse maigre chez les femmes, donc elle est de 43,2 kilos en moyenne chez une femme. C'est là que je suis en train de me dire que je suis en train de faire le ratio avec moi-même. C'est là que je suis en train de me dire que j'ai quand même du muscle, c'est marrant. Et elle est de 61,5% chez les hommes. Chez les femmes, la masse musculaire, elle représente 72% du poids de corps, alors qu'elle représente 82% chez les hommes. Donc ça, c'est intéressant. D'emblée, on comprend pourquoi, d'un point de vue pur, en termes de performance intrinsèque, les hommes vont soulever plus lourd, les hommes vont être plus puissants, les hommes vont être plus explosifs. Forcément, il y a plus de muscles, donc ça veut dire quoi? Il y a plus de fibres musculaires. Qui dit plus de fibres musculaires dit plus de capacité contractile, donc dit plus de puissance développée, d'emblée. C'est clair, hein, c'est mathématique, donc ça c'est assez intéressant. Donc forcément aussi on va avoir des conséquences sur tout ce qui est les activités, donc d'explosivité, de force, de vitesse, et donc aussi tout ce qui va stimuler la VMA ou le VO2 max, forcément, puisque quand on est à VO2 max, on utilise toutes nos capacités musculaires et d'oxygène, hein, donc c'est logique que voilà. Ensuite, il y a d'autres données que j'ai trouvées très intéressantes, c'est qu'en fait le diamètre des fibres musculaires, il est inférieur chez la femme. Alors c'est aussi pour ça qu'on dit souvent qu'une femme c'est plus fin. On voit plutôt des muscles plus fins, plus dessinés. Mais du coup, forcément, s'il y a un diamètre de fibre plus fin, alors une fibre musculaire, je sais pas si ça vous, si vous voyez, mais globalement, c'est comme une corde qui est tressée, en fait. C'est-à-dire que le faisceau musculaire, il est constitué de microfibrilles, qui sont des microfibres musculaires. Et donc, en fait, c'est comme si c'est, enfin, c'est comme les, c'est l'équivalent d'un fractal, en fait. Le fractal qui est la reproduction à l'identique d'un modèle. Par exemple, le flocon de neige est un fractal. C'est la reproduction plusieurs fois de la même chose. La fibre musculaire, c'est un peu ça. C'est une grosse fibre dans une moyenne fibre, dans une petite fibre. Donc forcément, si les fibres elles sont inférieures, il y a moins de capacité contractile à nouveau, quoi. Il y a moins de capacité de contraction. Et autre donnée que j'ai trouvée très intéressante, il y a moins de pourcentage de fibres 1 chez les femmes. Donc les fibres de type 1, donc je vais refaire un petit bilan rapide. Il y a deux types de fibres, fibres de type 1 et fibres de type 2, sachant que dans le type 2, on a le 2-HALDB. Pour faire très simple, les fibres 1, on les appelle les fibres rouges parce qu'elles sont vascularisées, alors que les fibres 2 sont les fibres blanches parce qu'elles ne sont pas vascularisées. Pour quelle raison ? Les fibres 1, c'est les fibres de l'oxygène, c'est les fibres des activités aérobies. Donc forcément, elles sont vascularisées puisque, je rappelle, hein, en aérobie, on utilise l'oxygène pour alimenter les fibres. Alors que je le rappelle aussi, quand on fait de l'explosivité, de la force, etc., on est en anaérobie alactique. Donc qui dit anaérobie dit absence d'oxygène. Donc ces fibres, elles n'ont pas besoin d'être vascularisées. Donc pourcentage de fibres inférieur, on comprend aussi pourquoi intrinsèquement les VO2 max et les VMA des femmes sont inférieurs de manière innée à celles des hommes, forcément, puisque ce sont des fibres contractiles qui vont être utilisées dans ces efforts-là. Bertrand, je t'écoute, est-ce que tu veux rebondir?
Non, mais je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que ça explique déjà beaucoup de choses, hein. C'est parce que on regarde les résultats, tu vois, tout à l'heure, je regardais les chronos, les records, parce qu'il y a un challenge sur le marathon pour tous avec la record woman du monde de marathon avec le temps qu'elle fait, etc. On peut se demander d'où vient l'écart. Mais quand on sait que ces données-là, le corps est fait comme ça, quoi, ça devient assez logique de comprendre, qu'on arrive à comprendre ces trucs-là. Et je pense qu'on s'en rend pas compte, en fait. Globalement, on voit pas cet écart-là. Moi, personnellement, je voyais des différences, bien sûr, morphologie, mais je pensais pas que ça allait jusque là, tu vois. Franchement, j'apprends beaucoup de choses, tu vois. Je note avec, je suis consciencieux, tu sais, je considère que c'est mon université personnelle, quoi.
Comme je l'expliquais, c'est pas forcément des données qui sont pratico-pratiques, c'est-à-dire que ça va pas nous permettre de demain changer des choses. Par contre, ça nous permet de comprendre, en fait, pourquoi on est si différent et pourquoi, on a des possibilités d'action qui sont différentes. Alors, autre donnée, moi, que j'ai trouvée intéressante, c'est en ce qui concerne les réserves énergétiques. En fait, on constate que la femme, elle a des stocks forcément plus élevés en triglycérides, mais surtout, en fait, elle a ce qu'on appelle une capacité glucidique et un potentiel oxydatif qui est plus élevé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on a a priori plus de possibilités à décomposer et à utiliser les molécules de glucose. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, on constate finalement que d'un point de vue constitutionnel, c'est compliqué à dire ça, l'homme va être beaucoup plus apte à réaliser des performances dans des sports qui vont nécessiter de la force, de la puissance, de l'endurance ou de la vitesse, en raison du fait qu'il est plus grand, plus large, plus fort, et donc il a une masse musculaire qui est plus développée. Mais à l'inverse, la femme, avec sa morphologie peut-être plus petite, avec une masse musculaire moindre et une masse adipeuse qui est un peu supérieure, ça peut favoriser les activités de souplesse ainsi que des activités de très longue durée, puisque, comme je viens de l'expliquer, le potentiel oxydatif est majoré. Donc, en fait, on voit bien que au départ, et alors là, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit parce que ça va m'énerver, parce que ça, j'y crois pas du tout. Au départ, la femme est a priori moins performante dans les activités que j'ai citées, et a priori plus performante dans d'autres activités. C'est pour ça qu'on parle de stéréotypes de genre. Alors nous, c'est quelque chose dont on parle beaucoup à l'université, en STAPS. On parle d'activités genrées, d'activités sexuellement orientées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans notre société, il y a des APSA, j'appelle ça des APSA, des activités physiques, sportives et artistiques, qui sont sexuellement connotées comme étant masculines et d'autres qui sont sexuellement connotées comme féminines. Eh bien, en fait, il y a deux facteurs qui jouent là-dedans. Il y a un facteur social, certes, Mais il y a aussi un facteur physiologique tel que je viens d'expliquer et biomécanique. C'est-à-dire que c'est très probable que puisque les femmes sont plus en réussite dans des qualités de souplesse que les hommes, eh bien c'est plutôt ça peut expliquer l'engouement par exemple des pratiques comme la danse ou comme la gym pour les filles. Pour autant, c'est pas parce que la femme est plus en réussite que ce sont des activités de femmes ou d'hommes. Hein, je tiens bien à insister là-dessus et je tiens aussi à insister sur le fait que on peut aller dans des activités dans lesquelles on n'a au départ pas une morphologie adaptée à ce type de pratique. Voilà, donc ça, c'est vraiment... faut le noter, il faut le retenir, parce que...
Et je peux faire un petit clin d'œil, mais je fais un clin d'œil à mon podcast Kilomètre 350, parce que mon invité de la semaine dernière, Camille Pic, on en parlait, elle m'a donné une stat qui était intéressante. On apprend moins filles à faire du vélo quand elles sont petites. Donc, il y a beaucoup de femmes qui commencent le vélo plus tard, etc. Et elle me disait qu'en fait, dans le vélo, et on en a parlé dans l'ultra-endurance, en cyclisme, il n'y a pas tant d'écart entre les hommes et les femmes, mais qu'il y a une partie de l'écart qui vient peut-être du fait aussi qu'elles se mettent au vélo plus tard, que c'est plus compliqué, etc. Pourquoi on n'apprend pas des petites filles à faire du vélo? Je vois pas la raison, en fait. C'est-à-dire que moi, ma fille, moi, je la mets sur un vélo. Mais la statistique en France existe en tout cas de montrer qu'il y a plus de femmes qui commencent le vélo plus tard, qui ont moins d'expérience de vélo et qui finalement au même âge qu'un homme, par exemple à 22-23 ans quand elles commencent à faire certaines courses, ont moins d'expérience, on en fait moins. Et il y en a même qui apprennent vraiment sur le tard. Et c'est pas physiquement quoi, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'une petite fille puisse pas apprendre à faire du vélo ou quoi que ce soit. Enfin, mais elle, c'était un chiffre qu'elle avait parce qu'elle a analysé le truc, elle a écrit des bouquins, etc. Et sa vision féministe des choses disait aussi que un jour ou l'autre, sur des courses d'ultra-endurance, elle est persuadée que les femmes gagneront des courses parce qu'elles auront les années d'expérience, parce qu'elles peuvent se mettre au vélo de plus en plus tôt, parce qu'on accepte aussi. Et je sais pas si c'était le cas ou pas. Tu vois, je parlais du marathon tout à l'heure en clin d'œil. Je sais pas si dans le vélo, par exemple, si à un moment on disait non, une femme peut pas faire de vélo. Et ça, j'en suis quasiment sûr que ça a pu exister.
Il y a le clin d'œil légendaire de Marc Madiot là avec Jamie Longo.
Punaise, là, comme il a traité. Oui, mais il faut le raconter. C'est vrai que mal qu'il lui fait quoi.
Pour ceux qui n'ont pas la référence, en fait, c'est en 1984. 85-90, un truc comme ça. C'est à la télé, et donc ça prouve quand même que notre société a évolué. Alors là, en fait, vous ne le voyez pas, mais il y a la grosse féministe Laure qui n'ose pas trop depuis tout à l'heure y aller, mais là, elle y va. Donc en fait, Marc Madiot, qui est aujourd'hui directeur d'une équipe, je ne sais pas laquelle, je ne l'ai pas, peut-être là, j'ai deux R, une équipe française, Cofidis. Ouais, c'est une équipe française. À l'époque, il est coureur cycliste. Et en fait, sur un plateau, donc il reçoit, il y a le journaliste qui le reçoit, lui, et Jeannie Longo. Et en fait, à ce moment-là, Marc Madiot, il dit tout simplement que les femmes, elles sont pas faites pour faire du vélo, parce qu'elles sont pas belles, elles sont moches sur un vélo, et puis de toute façon, elles sont pas faites pour ça. En fait, elles sont faites pour faire autre chose, sous-entendu la bouffe, les tâches ménagères, quoi. Et en fait, à ce moment-là, cette scène, elle est. Alors, peut-être qu'on la mettra en clin d'œil. Je te la retrouverai.
J'ai retrouvé la vidéo. Avec
génial, faut la mettre, faut qu'on la partage sur Instagram.
Et Marc Madiot, en plus, il a un maillot de champion de France à l'époque. Jeannie Longo, elle habillait en civil. Et en plus, c'est super marquant parce qu'il y a eu le départ, etc. Et tout, donc il y a vraiment une image qui est marquante. Et il lui dit très clairement, et alors quand même la phrase, c'est énorme. Il lui dit, je pense c'est qu'on moche. Ne peut pas dire qu'on aime les femmes et qu'on ne respecte pas leurs aspirations. Bon, ça, c'est Jeannie Longo qui répond ça, en fait, qui essaye de répliquer en fait en disant, mais si vous dites que vous aimez les femmes, etc. Mais lui, il lui avait dit un truc, vous êtes moche, je suis désolé, je regarderai le cyclisme féminin le jour où elles mettront des maillots, des cuissards, des chaussures un peu plus jolies. Là, c'est vachement... Et en plus, quand on sait qu'il sort ça comme Jeannie Longo, la carrière de Jeannie Longo, les records, tout ce qu'il a fait, etc. Enfin, la carrière de Jeannie Longo par rapport à celle de Marc Madiot, je n'ai rien contre Marc Madiot, mais c'est vrai que... c'était raide. Et puis à la télé, il lui sort ça et tout. Et c'est vrai qu'en plus, il le dit avec un ton qui est vachement véhément, quoi.
De toute façon, il faut quand même... On peut revenir à Pierre de Coubertin. Si tu veux qu'on fasse de l'histoire, moi, il n'y a pas de problème. Pierre de Coubertin, il a quand même dit que le sport... était réservé aux hommes parce que ils cultivaient l'effort et que les femmes, il le dit clairement Pierre de Coubertin. Donc quand on prend la devise des jeux plus vite, plus haut, plus loin, Pierre de Coubertin machin, oui vas-y c'est ça. Mais Pierre de Coubertin c'était un gros macho, hein. Il faut quand même remettre les choses à leur place.
J'ai un pas misogyne, la citation. Tu veux dire un misogyne, mais
j'ai pas la citation exacte. Un misogyne. J'ai pas la citation exacte. Je te la donnerai à la fin de l'épisode, Bertrand, de la définition qu'il donne du sport. Il me semble que c'est 1936 ou un truc comme ça.
Alors j'ai une phrase. J'en ai trouvé une moi.
Vas-y.
Alors il dit Alors, il a dit plusieurs phrases. Alors, dans un texte, en 1912, il a osé dire un truc. Non, mais c'est horrible, en fait. Je te jure, quoi.
C'est peut-être
les femmes aux Jeux Olympiques, donc il dit un truc du style que c'était inesthétique, impratique, inintéressante, incorrect.
Non, voilà. C'est bon, je l'ai. Et le puis, sport, je l'ai. Le sport est le culte volontaire et habituel de l'effort musculaire, intensif, appuyé sur le désir de progrès et pouvant aller jusqu'au risque. Mais après, il dit autre chose. Et je n'ai pas la suite, mais c'est la suite
et
qui est intéressante.
Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Voilà. Et en fait, il dit le rôle des femmes devrait surtout être, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Donc, il place vraiment la femme qui remet le maillot, mais comme on voit sur le Tour de France, etc. La femme qui. Enfin, on voit dans toutes les courses les femmes qui viennent faire la bise, etc. Et à côté du mâle, le vainqueur, etc. Enfin, c'est vrai. Et il a sorti ça en 1935. Mais il y en a d'autres. Hein. En fait, il en a sorti plein d'autres parce qu'il a persisté pendant pas mal d'années quand même à sortir ça. Et je le répète, hein, le marathon aux Jeux Olympiques, pour les femmes, c'est 1984. Et les premières femmes qui ont couru Boston s'étaient cachées déguisées en hommes. Hein. Donc, voilà. Comme quoi. Ça a mis du temps.
Oui, alors après, il faut aussi se dire que, de toute façon, l'histoire de la femme, si tu veux, on pourrait faire un épisode hein, sur l'évolution de la position de la femme. Mais à ce moment-là, j'ai un invité qui va t'intéresser, qui est historien et qui peut te parlera ça très bien. Mais ça pourrait être très intéressant d'avoir l'histoire de la femme. Mais je te retrouverai cette citation dont je te parle. Là où on en était, c'était que d'un point de vue morphologique et physiologique, les femmes ne sont pas constituées de la même manière que les hommes, ce qui effectivement explique des différences de performance, des différences de potentiel et de niveau de ressources. Alors, je vais rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure là, sur le fait que les femmes ont une capacité oxydative plus grande que les hommes, parce qu'en fait, on constate aussi que les femmes ont une dégradation glycogénique inférieure aux hommes. Alors là, attention, c'est compliqué, il faut bien comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que on sait utiliser mieux les glucides que vous. C'est-à-dire que si on a des glucides à disposition, en fait, on va mieux les capter que vous et on va mieux les parce que je rappelle, hein, le glucide est la manière avec laquelle l'organisme va utiliser ces molécules, les décomposer pour produire de l'ATP. Alors, c'est ça, hein, les filières énergétiques. Sauf que en fait, nous, on est plus en difficulté pour dégrader le glycogène existant. C'est ça, la dégradation glycogénique. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, à l'effort, quand on apporte du glucose par voie d'alimentation, il est directement dans le sang, il est directement accessible. Et à ce moment-là, le glucose, il est pur. Donc là, nous, on va avoir une grande capacité en tant que femme à l'utiliser. Pour autant, je le rappelle, on a aussi des formes de stockage du glucose, qui sont le glycogène, qu'il soit musculaire ou hépatique. Et on a aussi la capacité à convertir les stocks de lipides en glucose. Et bien là-dessus, en fait, les femmes, elles ont une dégradation glycogénique qui est inférieure aux hommes. Ça veut dire que sur des efforts, entre guillemets, où on n'apporte pas suffisamment d'énergie, on va être plus en difficulté. Donc là, pour moi, ça a deux conséquences. La première, c'est qu'on comprend aussi pourquoi, alors c'est pas lié que à ça, hein, mais il y a d'autres choses, mais pourquoi les femmes ont plus de mal à perdre du poids que les hommes. Ça, c'est la première chose. Parce que du coup, on va avoir beaucoup plus de difficultés à aller chercher dans le stock. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ça, pour le coup, ça peut être une application pratico-pratique, c'est que en tant que femme, en fait, il va falloir plus s'alimenter pendant l'effort. Parce que se dire, on a des réserves, et donc on va aller piocher dedans, c'est complètement faux, parce que du coup, ça tient pas la route. Parce que du coup, forcément, on a du mal à y aller. Donc, clairement, il va falloir s'alimenter et peut-être un petit peu plus que les hommes. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours, par exemple. C'est pas du tout un conseil. Quand on parle d'alimentation à l'effort, on dit pas à une femme, alimente-toi deux fois plus qu'un homme. Et pour autant, alors, c'est pas une histoire de deux fois plus, mais ça va être une histoire de pouvoir apporter à l'organisme un tout petit peu plus de glucose directement assimilable et directement utilisable. Donc voilà, donc ça c'était le truc que je voulais un petit peu sur lequel je voulais venir. Ensuite, il y a la question, on y revient, des hormones. En fait, il y a des études qui ont été menées donc pour la récupération sur le fait que en comparaison à l'homme, en fait, quand on est sous activité ovarienne, lorsque les ovaires fonctionnent, donc plutôt sur la deuxième partie du cycle, hein, la phase faisant suite à l'ovulation. Eh bien, en fait, la femme semble mieux protégée que l'homme des dommages musculaires. Donc, ça veut dire qu'en fait, a priori, surtout sur des exercices excentriques. Donc, ça veut dire qu'on pourrait encaisser des exercices excentriques plus facilement, plus aussi, et mieux récupérer. À nouveau, une conséquence, hein, mais alors là, ça devient vraiment technique et compliqué. Ça veut dire qu'il faudrait placer la charge d'entraînement des exercices excentriques davantage sur la deuxième partie du cycle. Parce qu'en fait, ça serait la période pendant laquelle il y aurait le moins de dommages et on récupérerait mieux. Et donc, en fait, à ce moment-là, on constate qu'il y a une activité anti-inflammatoire qui est, une activité inflammatoire post-exercice qui est moins importante chez la femme. Et donc aussi une capacité de régénération musculaire qui est plus importante chez la femme suite à ce type d'effort. Donc moi, ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'on voit bien à nouveau que le cycle et notamment les hormones qui dirigent notre corps, hein, tout est toujours une question d'hormones, ont des conséquences directes sur notre capacité à récupérer, notre capacité à encaisser des charges, et notamment notre capacité à produire des performances. Bon voilà, moi je pense que je ne vais pas rentrer dans plus de détails, je pense que j'ai donné pas mal d'informations. Ensuite, entre guillemets, un petit peu comme ça, des idées dont je voulais parler, mais je ne vais pas avoir le temps de tout faire, je vois l'heure qui tourne. Je voudrais simplement expliquer le fait que en tant que femme, on a plus de risques entre guillemets au départ d'avoir deux problématiques sur le sport. La première, c'est la problématique de la densité osseuse à partir de la ménopause, parce qu'en fait jusqu'à la ménopause on est protégé parce que les œstrogènes contribuent à la calcification osseuse et à la densité osseuse. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est qu'en fait, donc on fera un épisode, on a dit qu'on allait en parler spécifiquement de la ménopause. Autre chose dont je voulais parler, c'est le problème de fer, de carence en fer, qui touche très souvent les femmes, pour plein de raisons. D'une part, la femme, alors pas toutes, hein, je fais pas de généralité, mais on a tendance à souvent moins manger de viande rouge que vous les hommes. Et deuxième chose, il faut savoir que le sport d'endurance, en fait, et particulièrement la course à pied parce qu'il y a des chocs, alors la course à pied détruit en partie les globules rouges dans lesquels on va transporter le fer. Tout ce qui est sport d'endurance, en fait, ça inhibe la production de ferritine. Et ça, enfin, c'est pas directement, mais par des, j'ai perdu le nom d'un coup là, par des petites protéines, voilà. Ouais. Et donc, en fait, les femmes sportives d'endurance, de sport à impact, chaque fois je renforce, hein, plus on est sportive, plus on fait de l'endurance et plus on a de l'impact, plus on a des chances d'avoir des carences en fer. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que, mesdames, vraiment, le conseil que je vous donne, c'est de faire des bilans sanguins, bien sûr, tous les ans pour avoir un total, mais surtout de doser la ferritine pour voir où vous en êtes, parce que la ferritine, elle permet le transport d'oxygène. Donc, c'est très paradoxal. Hein. C'est très, très paradoxal. Hein. Ça veut dire que qui dit pas de ferritine, dit plus de fatigue, plus de difficultés à oxygéner, moins de récupération, et une moins grande capacité cardio-respiratoire, tout simplement. Donc, c'est quand même juste le serpent qui se mord la queue, quoi. Ou tout simplement, c'est la branche sur laquelle on s'assoit. C'est-à-dire qu'on s'entraîne pour augmenter, notamment, une des adaptations à l'exercice, c'est d'augmenter sa capacité respiratoire. En fait, là, on l'a détruit, quoi. Donc ça, c'est important. Et puis, autre point sur lequel je voulais revenir, qui, moi, me semble intéressant, parce qu'on va faire un épisode, du coup, on fera le prochain épisode vraiment sur le cycle, etc. On fera aussi le prochain épisode sur les différentes étapes de la vie d'une femme. Mais je voudrais quand même revenir sur le REDS. Pourquoi ? Parce que ça, c'est encore trop méconnu, c'est encore trop tabou, c'est encore... même si on commence à savoir que ça existe et tout, en fait, c'est comme si on se voilait la face, quoi. Le REDS, c'est quoi? En fait, c'est le déficit énergétique relatif. Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que, c'est pas que les femmes, hein, mais ça touche majoritairement des femmes. Ça veut dire qu'en fait, on intègre moins de calories qu'on en consomme. Et ça ne se traduit pas. Enfin, parfois, c'est, en fait, je pense qu'on connaît pas encore, vraiment tous les REDS. Parce que globalement, le REDS de base, il est simple. Hein. C'est globalement, il y a de l'anorexie, il y a des troubles du comportement alimentaire, il y a une perte de poids, il y a des utilisations de techniques de perte de poids, etc.
L'aménorrhée.
Oui, merci, j'avais oublié de le dire. C'est quand même le premier truc le
Bah,
plus important.
qui est un peu le grand signal. Alors, quand ça arrive là-dessus, on dit ouais, il y a un vrai gros problème. Mais c'est vrai que
C'est ça, c'est
ouais,
ça, c'est
il y a,
ça.
y a des trucs qui arrivent avant quand même, hein, faut le
C'est
dire.
ça.
Mais toutes les
C'est ça.
femmes qu'on a eu le truc, l'aménorrhée, ça devient quand même le signal qui te dit là, attention, gros point, gros problème, quoi.
Et en fait, pourquoi j'en parle? Bah, moi, je peux le dire, hein, je l'ai vécu quand j'étais jeune, quand j'étais sportive, voilà, pas loin, je courais, je faisais les France dans pas mal de, dans natation, course à pied, en cross, j'ai fait pas mal de trucs, quand même, je m'entraînais beaucoup, en fait, je faisais beaucoup de sport d'endurance, j'ai quand même, voilà, j'ai quand même pratiqué à plutôt bon niveau, on va dire, et j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit, bah, t'as plus tes règles parce que tu fais trop de sport et parce que tu consommes pas assez d'énergie à côté. Et en fait, je crois aussi avec le recul aujourd'hui, je pense qu'on connaît pas encore tout du RED, c'est ce que j'expliquais, parce que je pense que le RED, c'est pas qu'un déficit énergétique. Je pense que c'est aussi et surtout un déficit de micronutriments, de vitamines et de minéraux, parce que je pense que c'est des périodes dans lesquelles on a tendance à minimiser les apports alimentaires en termes de qualité des apports. Bon, après, je dis pas que toutes les femmes qui ont un RDS font pas attention à ce qu'elles mangent, hein, mais je pense que c'est quand même aussi et surtout vraiment cette qualité des apports. Moi, je pense qu'à l'époque, je mangeais peut-être plus de calories qu'aujourd'hui, mais je mangeais sans doute des calories pauvres. Donc vraiment, ça c'est le conseil que j'ai envie de donner parce que qui dit Journée internationale du droit des femmes dit aussi le droit à l'information, le droit à être prise en charge et le droit à être bien prise en charge. Et malheureusement, et je l'ai déjà dit, mais il y a beaucoup trop de médecins ou de gynécologues qui ne connaissent pas l'existence de rien que de ça. Quand on leur dit le RED-S, ils savent pas ce que c'est. Donc vraiment, les premiers symptômes qui doivent alerter, hein, c'est ça. C'est Bertrand l'a dit bien sûr, c'est l'aménorrhée. C'est la perte de poids. Déjà, pour une femme, ne pas avoir de règles, c'est pas normal. Mais si le médecin vous dit juste, bah, écoutez, vous avez un poids qui est trop faible, ou oui, bien sûr, on sait que chez la femme, il y a un poids charnière, hein. C'est-à-dire, et globalement, ce poids est associé à un pourcentage de masse grasse. Il y a un pourcentage de masse grasse en dessous duquel, bah, le corps se protège en se disant, tu n'es pas suffisamment armée et vaillante pour redonner la vie, donc je t'interdis de donner la vie. C'est un petit peu ça l'idée, hein. Mais c'est pas juste une histoire de poids. Et bah, si, le poids est une conséquence. Il faut revenir à l'origine, et l'origine, c'est quand même aussi et surtout l'alimentation. Donc, n'hésitez pas à vous informer sur le sujet. Il n'y a pas encore beaucoup de données intéressantes. Je sais qu'il y a Barbara Vulprani, c'est ça que tu as reçu?
Vulpinari, alors j'ai
Ouais.
jamais à le dire dans le bon sens,
Moi non plus.
que j'avais
Je crois que
invité
c'est ça.
dans Kimé
Ouais.
42, Barbara Vulpinari, qui est spécialiste du domaine.
Ouais,
On a
qui en
parlé
parle très très
aussi
bien. Donc
avec
l'épisode avec elle est
Mouchka.
très intéressant, très très intéressant.
Et elle a même créé un podcast. Alors, je retrouverai le lien, j'essaierai de vous remettre le lien pour celles qui sont intéressées, parce que sur le sport féminin, ou alors je pense pas qu'elle parle que de ça, mais en tout cas, où elles ont créé un podcast sur le sujet, parce que c'est une question qu'elle a connue, hein, qui est, tout simplement, et qu'elle a eu comme truc en disant, vous faites du sport, c'est normal de pas avoir vos règles. Et c'est souvent le discours qui a été entendu par beaucoup. Et sauf que les conséquences à long terme, c'est la perte. Enfin, je ne sais plus si c'est elle ou si c'est une autre invitée qui me disait qu'elle avait le corps, les os d'une femme de ménopausée, en fait.
Oui, c'était elle.
À 25 ans, quand à 25 ans, on a les os d'une femme de 65. Ça existe aussi
Non,
chez les hommes,
non,
parce que j'ai eu un cas chez les
je sais
hommes.
qui disait ça, ce que j'allais te dire, c'est le cycliste que t'as
Je.
reçu,
Ouais, on a eu
qui était
le
boulanger ou
cycliste.
pâtissier là, ou cuisinier. C'est
Oui,
lui.
il y a eu Valentin Lacroix qui en a parlé.
C'est
On a eu
ça,
le
c'est
tri. On a
Valentin
eu
Lacroix qui a dit ça.
Alexandre
Ouais,
Béraud
ouais.
aussi, avec lequel on a parlé du
Ouais.
RDS chez les hommes. Où là,
Mais
il y a
alors,
d'autres
pourquoi chez
symptômes.
les femmes? En fait, voilà, c'est ça. C'est que nous, les femmes, entre guillemets, j'ai envie de dire, on a cette chance. Parce qu'en fait, les règles, on les voit tout de suite. C'est-à-dire, si au bout de 2 cycles, il n'y a pas de règles, ben, bien sûr, on écarte d'autres hypothèses. Hein. Mais là, on est sur d'autres problématiques. Mais les hommes, c'est plus compliqué parce qu'en fait, déjà, c'est un sujet ultra tabou de dire on n'a plus de fonction érectile, plus de libido, parce que c'est ça ce qui se passe chez eux, c'est qu'il y a une baisse de la testostérone, et la testostérone, c'est l'hormone de la libido, hein, et de la fonction érectile. Nous, chez les femmes, à la limite, c'est moins tabou, et quelque part, c'est plus direct, quoi. On peut voir tout de suite. Et donc, vraiment, le conseil qu'on peut donner, nous, on peut pas accompagner, c'est pas notre job, il faut vraiment être encadré médicalement. Ça veut dire vraiment essayer d'aller voir une gynécologue qui est informée de ça, lui parler, si elle n'a jamais entendu parler du RED-S, lui dire que peut-être vous y mettez l'hypothèse, parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, hein. vous avez entendu parler de ça, que c'est le déficit énergétique relatif, etc. Peut-être arriver avec un livre ou une bonne lecture sur le sujet, le partager à votre gynécologue. Et en parallèle de ça aussi, peut-être vous orienter vers une nutritionniste spécialisée dans le sport. Parce qu'attention, hein, les diététiciens, au départ, ne sont pas du tout formés pour la pratique sportive. Le diététicien, entre guillemets, il n'y a pas de connotation négative dans ma bouche, mais de base, donc il y a un diplôme de diététicien. Il est formé essentiellement pour faire perdre du poids, pour les régimes alimentaires, plutôt rééquilibrage alimentaire pour des personnes en surpoids. Donc, voilà, il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes, il faut s'entourer des personnes qui ont la connaissance sur le sujet. Très souvent, c'est associé quand même à des troubles du comportement alimentaire, dont tu vas sans doute, vous allez sans doute avoir des informations dans d'autres épisodes avec Bertrand qui a reçu des femmes d'exception. Donc troubles du comportement alimentaire, hein, avec toujours voilà cette problématique. Mais en tout cas, c'est important. Le REDES, notez bien ce trouble, ce nom, et dites-vous bien que si vous n'avez plus vos règles, c'est déjà la manifestation physiologique d'un gros problème.
Voilà, c'est dit. Et il y a eu des cas, parce qu'on le voit sur Internet, avec certaines personnes, certaines femmes qui souffrent de REDS, qui font des fractures de fatigue, qui finissent par le dire quand elles sont blessées et tout, mais qui sont à très haut niveau. D'ailleurs, dans certains sports, on le sait, on le voit. Je ne dirais pas les noms, parce que ceux qui suivent un peu les sports le savent et le voient très bien, et très, 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 très bien. Mais qu'on met beaucoup de temps à s'en remettre. Et tu vois, dans les cas que j'ai eus, même là-dedans, même après avoir, semble-t-il, soigné le REDS, la perte de densité osseuse continue pour certaines personnes, donc ce qui montre quand même que l'impact est pas réversible. Et je sais plus quel invité l'avait dit, d'ailleurs on sait pas si on peut récupérer ce qu'on devrait parce que c'est très compliqué, et que même finalement la dégradation continue malgré les efforts. Donc c'est quand même c'est une vraie question, ça. Mais on en reparlera, c'est sûr qu'on en reparlera, parce que il y a des témoignages, parce qu'il y a des études qui vont être faites, parce que ça va progresser, etc. Et que c'est une question qui est vraiment importante et qui est vraiment que j'ai découvert, moi, je le dis très clairement, dans l'année, c'était ma grande découverte de 2022, en tout cas dans mes découvertes. Bon, bah écoute, on a fait un sacré tour. Hein.
Ouais, c'est pas mal encore. Hein. C'est toi qui as le compteur avec le chrono, à chaque fois je ne regarde pas moi. Mais...
moi je regarde mon chrono, je me dis que c'est l'heure de la petite surprise, le petit jeu.
Ouais, on a réservé une surprise. Alors je n'ai vu juste que surprise, donc je vais être encore bien, bien surprise, je pense.
Non, alors j'ai fait un truc l'autre jour, on avait dit on fera des battles, mais la battle, on l'a décalé un peu dans le temps, de faire une vraie battle sur les sujets qu'on voulait faire. Et j'ai demandé aux gens de dire une question, c'est ça ou ça. Donc c'est très simple. Et ça aurait été encore plus drôle si on le faisait tous les deux en même temps, mais comme c'est que moi qui ai les questions, moi après je peux. T'as le droit de mettre un commentaire, mais pas trop, d'accord? Et puis moi aussi je te donnerai mon commentaire. T'es prête?
Vas-y, je crois.
Non, mais elle était facile. Short ou pantalon?
Un short.
Chaussettes à doigts ou sans?
Attends, non, on a le droit de justifier quand même.
Oui, vas-y.
Un short parce que. Alors pas pantalon, legging, t'avais dit.
Oui, là parce j'ai une question short ou pantalon. Et il y a une vraie question, il y a quelqu'un d'autre qui a porté short ou legging.
Ok, alors voilà. Short ou pantalon, non, en dessous de 0 degré, pantalon. Ah oui.
Ça marche.
Ah oui.
Alors là, il y a une question minimaliste ou drop maximum. Alors celle-là
on s'agarde pour...
Non, mais donne ta réponse.
Eh ben, ni l'un ni l'autre. Ouais. Moi, je suis contre les extrêmes, et tu le sais, donc ni l'un ni l'autre.
Ouais. Moi, je suis minimaliste et l'autre jour, j'ai essayé une paire de carbone et je me suis retrouvé sur des échasses à une telle hauteur que j'ai eu le vertige. J'ai regardé mes pieds, je dis, oh là là, non,
allez,
si, je te jure, les carbones, elles étaient très, très, très instables. Je l'ai dit sur Instagram, elles sont très instables. C'est vraiment très surprenant.
Mais c'est parce que t'as pas l'habitude.
Bah oui. C'est pour ça que j'ai le vertige. Moi, dès que tu m'enlèves et dès que tu me mets à plus de 1 cm du sol,
on avait
je suis
dit
mort.
Pas de commentaires. Hein.
Pardon.
Ouais. C'est bien, je reprécise la règle.
Gel ou barre?
Ni l'un ni l'autre.
Ni l'un ni l'autre.
Pareil. Mais j'ai déjà donné mon avis là-dessus. La barre, j'explique quand même. La barre, c'est les intestins qui vont faire le travail pour la décomposer, c'est l'enfer. Et le gel, je pense que c'est un condensé de. Alors le gel, sauf si voilà. Alors le gel à l'unique condition, comme on avait dit, si on peut pas prendre d'eau, si on n'a pas nos gourdes, si on peut pas ravitailler. Genre, je fais un marathon, je veux vraiment toutes les chances de mon côté. Si j'ai un gel qui me va bien, qui me convient bien, le gel. Mais dans la mesure du possible, un bon gel, quoi. Un gel bio, athlète nutrition.
Non, il y a une question quand même. Chocolatine ou pas en chocolat, tu dis quoi, toi?
Alors, moi, j'ai pas habité dans le sud, donc j'ai toujours dit pain au chocolat, mais je trouve que chocolatine, c'est très mignon. Voilà. J'aurais bien aimé, en fait, j'aurais bien aimé être de la team chocolatine parce que je trouve ça très mignon, mais j'ai toujours dit pain au chocolat.
Tu préfères le chaud ou tu préfères le froid?
Alors, ça c'est intéressant, hein, sur l'effort, le chaud c'est la vasodilatation, alors que le froid c'est la vasoconstriction. Donc en fait, on peut utiliser le chaud pour justement vasodilater, donc mieux récupérer, parce que du coup on ouvre les vaisseaux sanguins, donc on permet les échanges, donc on permet plus d'éliminer les déchets. Et à l'inverse, l'avantage de la vasoconstriction, c'est qu'elle permet une vasodilatation plus grande derrière. C'est pour ça qu'on alterne des bains froids et des bains chauds. C'est pour ça qu'on fait des douches froides après des saunas. Et donc, c'est ça aussi qui décuple l'avantage du chaud. C'est le fait de pouvoir passer dans le froid. C'est important de préciser quand même, sinon
oui,
c'est
nul. Oui, c'est vrai, t'as raison de préciser. Tiens, alors, tiens, une autre question. Rendez
mais t'as
matin,
vu, je suis synthétique.
Soir.
Je suis synthétique. Ouais. Et bien pareil, on en a déjà parlé, ça dépend de l'objectif. Si l'objectif c'est plutôt la performance, plutôt le soir parce que le corps est plus chaud, on est plutôt sur des moments d'éveil qui sont plus grands, donc on est sur des niveaux d'énergie aussi qui sont plus grands. Après, si c'est plutôt dans une logique sommeil santé, plutôt le matin pour pouvoir prendre la lumière du jour, plutôt le matin pour ne pas s'énerver trop le soir et limiter son temps d'endormissement. Voilà, vous savez, je suis synthétique quand je veux.
T'es très synthétique. Allez, j'en ai deux dernières pour finir, qu'on rigole un petit peu. Je passe sur les pipi caca, etc. parce que l'auteur de la question se reconnaîtra et elle saura que non, ce coup-là, ne te tombe pas dedans. Tiens, un truc, un vrai débat. Montre ou pas montre quand tu cours?
Et bah pareil, toujours par rapport à l'objectif, c'est-à-dire que, et toujours aussi peut-être par rapport à la personne. Moi, je pense qu'au début, c'est bien d'avoir une montre parce que ça reste un outil de protection, de prévention, de construction de repères extérieurs. Moi, je dis toujours que apprendre à courir, c'est devenir autonome. Et devenir autonome, en fait, c'est de passer de repères extrinsèques à des repères intrinsèques. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'aller courir et d'être capable de dire, là, je suis en endurance fondamentale, là, je suis au seuil, là, je suis AVM. Parce que je me suis construite depuis toute petite des repères intrinsèques sur des allures extérieures. Malgré tout, la montre, c'est vraiment un moyen d'avoir un repère extérieur au début. Mais moi, j'adore courir avec ma montre, même si j'ai mes repères. Donc, la montre, absolument oui au début. Parce que malgré tout, aussi, pour tout ce qui est gestion de la fréquence cardiaque, tout ça, très important. Mais ensuite, si on n'en a plus besoin, je sais que j'ai des amis qui adorent aller courir sans montre. Lionel, par exemple, je te fais un coucou, mais alors lui, il ne veut pas du tout de montre, par exemple. Et je le comprends, on part en forêt, comme ça, on n'a pas d'heure, on est en pleine nature et c'est trop chouette, quoi. Voilà.
Je connais, je fais un petit clin d'œil à Hermano, son entraîneur le fait courir sans montre. Des fois, il lui a fait courir des semis sans montre. Il comprend compétition et tout pour justement les sensations, pour qu'il ne soit pas absorbé par ça.
Ouais, mais... alors, je t'avoue, autant en natation, ouais. En natation, je suis carrément pour parce qu'en fait, on se focalise vraiment sur les sensations, on se focalise vraiment sur la fluidité, les appuis, beaucoup plus, comme fermer les yeux dans l'eau aussi. En course à pied, voilà, c'est toujours cette histoire de construire des repères quantitatifs, qualitatifs plutôt. Quoi,
ouais, moi, en natation, je me concentre surtout sur ma sensation de couler. Donc, franchement, que j'ai la montre ou pas, j'avance pas plus vite. Allez, j'en ai une dernière. T'es running ou vélo?
Pareil, l'un et l'autre, la complémentarité, parce que courir tous les jours, je le fais parce que c'est rentable, parce que je mets mes baskets et que j'ai 3 quarts d'heure et que c'est rentable et je me défoule bien en 3 quarts d'heure. Par contre, moi, si j'avais du temps, je ferais du vélo mais il faut du temps. C'est-à-dire que pour rentabiliser mes 3 quarts d'heure de course à pied, il faudrait que je fasse 1h30 de vélo, au moins. Donc voilà. Et puis après, c'est deux sports très différents, très complémentaires. Donc non, les deux, quoi. Je peux pas choisir, c'est trop bien.
Bon, allez, j'en ai une dernière, et c'est une question, alors, c'est ceux qui suivent le vélo, mais en fait c'est une coureuse qui la pose, avec ou sans culotte sous le legging?
En courant?
Ouais, parce qu'en vélo, en vélo on a la réponse, mais...
Alors déjà moi je cours pas avec un legging parce qu'en fait le legging il tombe, à partir du moment, enfin moi j'ai constaté, hein, même le 3/4, à partir du moment où ça passe le genou en fait, comme le genou bouge, l'articulation du genou, ça attire le truc vers le bas et donc moi je supporte pas. Donc je ne cours pas en legging pour cette raison. Après le legging c'est très bien pour tout ce qui est yoga, tout ça, parce que je trouve que ça maintient bien le corps et tout. Culotte dessous ou pas, ça dépend des leggings. Il y a des leggings qui sont hyper bien structurés, qui sont hyper bien coupés. On voit, voilà, il y a une petite culotte interne et tout, donc c'est très très bien. Et puis le problématique des culottes sous legging parfois c'est que ça fait des irritations dans l'entrejambe et chez la femme c'est particulièrement problématique voilà. Après malgré tout la culotte l'hiver sous legging c'est pas mal parce que ça isole du froid pour l'expérience si, parce que quand il fait très froid j'ai des leggings de froid, voilà, mais c'est tout.
Bon, et j'en ai deux dernières parce que je sais pas, peut-être pizza avec ou sans ananas?
Ben, je suis pas très pizza parce que je mange pas trop de gluten, donc, mais j'aime bien le sucré salé, donc je mangerais de l'ananas si je mangeais des pizzas. T'as vu, c'est pas mal.
Et c'est très bien. Et la dernière, ça, c'est quelqu'un qui écoute. Et en fait, c'est drôle, c'était la première question qui a été posée. Beurre de cacahuète ou belin?
Ah, pas mal. Ah, j'adore cette personne. Je sais pas qui c'est, mais j'adore cette personne.
Ouais, mais ça va lui plaire que tu lui dises ça parce qu'il t'adore aussi, je crois. Enfin, je crois que j'ai eu un commentaire de sa part en disant.
Eh ben, pareil, je vais dire un truc, c'est pareil. Trop, j'aurais fait que des réponses nuancées et je suis contente parce que je crois à la nuance. Le belin par plaisir, mais le beurre de cacahuète par habitude.
Voilà.
Donc, moi, je te propose que la prochaine fois, je te repose des questions à toi parce que là, il n'y a que moi qui ai répondu. Mais la semaine prochaine, on fait la même chose pour toi.
Alors, tu sais ce que je fais ? La prochaine fois, tu mets la boîte à questions sur ton compte et moi, je le partage.
Mais je ne sais pas faire ça. Et puis,
je t'expliquerai, je te ferai une petite formation. Tu sais que mon métier, c'est enseigner.
Mais les gens, ils ne vont pas répondre, ils s'en foutent.
Mais si, parce qu'en fait, ils poseront les questions.
Bon, vous avez intérêt à répondre,
comment tu feras. Et ils mettront le truc, je t'expliquerai. Moi, je transférerai pour que les gens puissent te poser des questions. Donc, allez sur mon compte Instagram une fois que ce sera fait. Et ils suivront. Donc, mon compte Instagram, @BertrandSoulier. Ton compte Instagram, LorPerfCoaching. Alors, je ne sais jamais comment, mais je le mets en note de l'épisode. Voilà. Et on fera ça. Et comme ça, tu pourras inverser. Ça sera drôle et tout, écoute. Sur ce, on va conclure maintenant cet petit épisode. Bien sûr, je mets tous les liens en note de l'épisode. Je crois qu'on a un lien sur l'histoire de la caféine qu'on peut mettre. Je mettrai le lien de Marc Madio. Je mettrai le lien aussi pour te retrouver, pour me retrouver, pour trouver un petit peu tout ce qu'on fait. On se retrouve la semaine prochaine. On continue sur cette thématique-là. On avait dit que ça couronne un peu la thématique. D'autant que c'est dans deux jours, la fête des femmes. C'était une blague.
Je ne réponds même pas d'ailleurs.
Non, mais tu sais. Et
je ne remets pas de 10 balles parce que sinon, de toute façon, tu vas repartir.
Les femmes, vous devriez vous offusquer sur les traitements qui sont faits par certaines marques et les marques de. Et les TEFA, les compagnies qui vendent des aspirateurs ce jour-là avec des réductions. Vous devriez vous insurger contre les magazines qui vous traitent, qui vous vendent des réductions spéciales ou qui font des unes sur ces sujets-là. Voilà, bref. Hein, mais on va pas rentrer là-dedans. Écoute, Laure, c'était un plaisir. Je te souhaite on est vendredi, donc je te souhaite un bon week-end,
tout.
Un bon apéro Belin. Je sais pas si
tu dis ça, mais tu sais très bien que t'enregistres avec moi demain matin.
Non, mais moi, écoute, j'ai prévu aussi, tranquillement, tu vois, d'aller un peu ranger mon placard et faire un petit peu de place en espérant avoir un petit peu, c'est le printemps et tout qui va arriver. Tu sais, j'espère sortir mes affaires d'été, moi, pour, courir enfin et rouler au chaud, etc. Aller chercher, tu vois, donc je vais faire une petite expédition parce que j'ai trouvé que j'avais un petit peu chaud pour courir. Malgré le froid qui arrive, et je prie pour que les jours chauds arrivent. Bref, t'as compris mon programme. Je vous souhaite à tous, en tout cas, une belle semaine. Hein, on se retrouve tout au long de la semaine avec de nouveaux épisodes et de nouveaux contenus. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez d'autres questions. Vous avez vu, on répond, on fait les échanges, les retours, etc. Et je te souhaite, écoute, une belle soirée, une belle semaine, Laure.
Toi aussi, Bertrand. Salut.
Ciao, ciao.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.